Cette semaine, dans le service après-vente de la F1.
Le cas Raikkonen fait encore débat.
À la Formule 1 veut faire des économies et réduit le nombre de moteurs pour 2015.
Sky obtient les droits de diffusion des Grands Prix en Italie.
Nico Rosberg et Mercedes avouent jouer le titre.
Valence peine à vendre les billets pour son Grand Prix.
L'équipe du SAV n'en glande pas une.
Et Shinji a la mémoire qui flanche.
Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission du SAV de la F1. Nous allons revenir cette semaine sur toute l'actualité de votre discipline préférée. Pour m'accompagner ce soir, bonsoir Dino. Et quels sont nos invités ce soir? Nos guests même.
Je n'avais même pas envie ce soir de jouer à ce petit jeu en fortune.
Mais bien sûr.
Puisque ce soir, j'avais déjà mon introduction chez Z, puisque nous ne changeons pas une équipe qui gagne. Et donc, nous allons refaire une émission avec Stepcore et Ben de la chronique Pitstop.
Bonsoir à tous.
Bonsoir.
Passez une bonne semaine?
Bah écoute, pas mauvaise. Il a fait beau hier. Ce sera le seul d'ailleurs.
J'adore. Il a fait beau hier.
Ouais.
Il a fait beau.
Waouh.
Bah écoute, c'est un peu exceptionnel. Il fait dégueulasse depuis fin mars. Donc.
C'est vrai.
Voilà.
Tu remarqueras que le temps nous fait plus chier que la crise. C'est bizarre.
Non, justement, moi, je lutte contre la crise que, semaine plutôt chargée, je pars, il fait nuit, je rentre, il fait nuit, travaille à fond.
Non, il fait pas nuit, c'est juste que t'habites à Flandre.
Voilà. La grisaille est permanente.
Chers amis de Flandre, on vous salue.
Messieurs, comme d'habitude, on va commencer cette émission avec le quiz.
Oui, le quiz. C'est nous cette semaine,
Oui, alors il faut rappeler les scores. Comme d'habitude, nous menons 14 à 11.
Oui. Ouais, enfin, c'est un modeste, petit écart, quand même.
Oui, mais on a rattrapé l'écart qu'on avait perdu parce que Dino avait été nul. Donc ça, c'est bien.
Petit emmerdeur.
Attends, excuse-moi, tu te plains de Dino?
On va voir ce soir. On va peut-être pas rigoler, je pense, chez lui. Ça va, non, c'est décidé. La guerre est ouverte.
C'est que le but, c'est pas qu'il y ait des guerres internes. C'est d'avoir...
Je m'en fous, trop tard. Alors, monsieur, êtes-vous prêt?
Oui. C'est Stepcore surtout qu'il faut poser la question. Moi, je me désolidarise totalement de cet individu.
C'est la merde dans toutes les
équipes. Il veut plus s'engager, maintenant.
Donc, je vous rappelle le principe, je vous pose une question. Si Shinji répond, notre équipe marque un point et marquera donc un point, puisque je pense que Shinji va répondre. Et si, par hasard, par la grande fortune, vous arrivez à répondre, chers amis chroniqueurs, vous marquerez deux points, ce qui vous permettra de revenir un tout petit peu sur notre avance, mais bon, ça c'est pas grand-chose. Alors attention messieurs, la question cette semaine est une question très simple. Quelle est la particularité du 31e Grand Prix du Canada?
Il n'y a pas eu de safety car.
C'était celui de cette année?
Non, et non.
C'est celui de l'an dernier, avec la durée de 4 heures et quelques, qui a été la plus longue pour un Grand Prix de F1?
Je dis, voyons, je fais des vraies questions.
Je me sens attaqué.
Non, on doit te rendre justice. On a dit que ta question était pourrie, mais c'est vrai qu'on nous a rappelé, Fab et Gus Gus nous ont rappelé, que Shinji n'était pas...
Mais moi, je l'avais pas répété, je l'avais pas travaillé, je l'avais sorti comme ça, direct.
Oui, c'est vrai. Je sais pas si c'est forcément... si ça plaît dans ta faveur.
Stéphane, comment tu...
sur la 31e...
Déjà, c'est quelle année, la 31e?
Si j'ai dit 31e, c'est pour vous perdre un peu, messieurs.
Oui, mais on se doute bien.
Donc, c'est celle de... Est-ce que ça, cela concerne... Ouais, c'est une course qui est après 2005?
Non.
Non, je... C'est les années 2000?
Non.
Mais les années 2010?
Non. Non, parce que de toute façon, j'ai déjà répondu que c'était pas cette année ni l'année dernière, donc automatiquement, ça grille un petit peu.
Donc c'est 2010?
Ah non, je dis que c'était pas les années 2000.
Donc,
les années 90?
Les années 90.
Ouais.
Bon. Ouais.
Mais sincèrement, trouver l'année, ça vous dira pas forcément.
Elle est particulière par son résultat?
Non.
Par un événement qui a eu lieu?
Non.
Est-ce que c'est comment dire, plus en rapport avec le pays, sur le Canada en lui-même, que ça a rapport avec le Canada en lui-même?
Non.
Mais ça a un rapport direct avec la course ou pas du tout?
Ah oui, c'est un rapport avec la course.
Est-ce que cela concerne...
C'est un rapport avec les événements de la course?
Indirectement, oui.
Avec un pilote?
Ouais.
En particulier ou...
Je suis obligé de répondre oui.
Un pilote qui participait à cette épreuve ou un pilote présent lors de cette course?
Un pilote présent lors de cette course. Donc je rappelle la question, hein, qu'avait de particulier le 31e Grand Prix du Canada?
Il commémorait une réalisation ou une victoire ou, d'un pilote, d'un ancien pilote.
Non. Non, je crois d'ailleurs que le pilote en question n'y a jamais gagné.
C'est un pilote qui a débuté lors de ce Grand Prix?
Non.
C'est un pilote qui a disputé son dernier Grand Prix là-bas? On essaye.
D'une certaine manière, oui.
D'une certaine
manière.
Est-ce
quelqu'un qui a eu un accident?
Non.
Je vais faire dans le morbide, mais est-ce que la personne...
C'est la dernière fois que ce pilote-là est rentré dans les points?
Non.
Est-ce qu'il lui arrivait quelque chose de malheureux lors de cette épreuve?
Alors, lors de cette épreuve, non, mais quelques jours plus tard, oui.
C'est pas lié à David Coulthard?
Non.
C'est pas lié à Schumacher? Non,
ni David Coulthard, ni Schumacher, il leur est arrivé quelque chose de triste. Enfin, quand moi j'entends triste, c'est vraiment quelque chose de malheureux. Pour le pilote, c'était malheureux que ça lui arrive.
Est-ce qu'il a eu un accident qui l'a blessé ou...
Non, il est sur le Grand Prix en question, il n'y a pas eu...
Non, mais quelques jours...
Lui, il roulait pas.
Mais quelques jours plus tard, il lui arrivait quelque chose de malheureux, c'est-à-dire que...
Il est mort 2 jours plus tard, d'une mort naturelle.
D'accord. Donc c'est un vieux pilote?
Non.
C'était un jeune pilote?
C'est un pilote retraité qui a une belle carrière en Formule 1, mais voilà, on peut pas dire que c'est un vieux pilote. D'accord. C'est pas Paul Piëch, par exemple. Même si je prends un extrême.
Attends, t'as dit que c'était son dernier Grand Prix, mais il a fait un résultat, c'est pas le résultat de ce pilote lors de ce Grand Prix.
Non, puisque le pilote n'a pas participé au Grand Prix.
Il n'a pas participé, on n'a pas commémoré quelque chose pour lui lors de cette épreuve.
Mais bah,
après coup, indirectement, oui, c'est quelque chose qu'on commémore. C'est-à-dire que si je vous pose la question, c'est pour commémorer ce qui s'est passé ce jour-là.
Mais il était là.
Et il a fait quelque chose en particulier pour le commémorer ou c'est simplement du fait qu'il soit décédé 2 jours plus tard?
Bah, c'est le fait qu'il soit décédé plus tard qui fait que ce Grand Prix-là est spécial.
Il avait remis la coupe ou...
Non, en tout cas pas à ma connaissance.
Par contre, est-ce qu'il avait fait un tour d'honneur dans son ancienne voiture ou...
Non.
C'est plutôt début des années 90 ou fin des années 90?
C'est plutôt au début.
Domination...
C'est un pilote qui a été champion du monde?
Oui.
Ah.
Assez âgé...
Assez âgé, mais...
Le 31e, hein.
Ouais, le 31e Grand Prix du Canada.
Il était commentateur.
Oui.
C'est James Hunt.
Oui, et donc, qu'est-ce qu'il a de particulier le 31e Grand Prix?
C'est le dernier qu'il a participé, mais en tant que commentateur, donc.
Et voilà, tout à fait. Le Grand Prix du Canada du 13 juin 1993.
93, d'accord.
Comme le dernier Grand Prix qui a commenté James Hunt pour le compte de la BBC, puisque James Hunt allait succomber à une crise cardiaque le 15 juin 93 dans sa résidence, je crois, de Wimbledon. Et donc, c'est l'occasion pour nous de revenir sur ce duo de commentateurs légendaires.
C'est ça, donc, je cherchais qui pouvait être commentateur, parce que s'il pilote et qu'il pilote pas, y a pas 40 façons d'être sur la piste.
Et donc, c'est l'occasion pour moi de revenir sur ce duo de commentateurs légendaires que formait Hunt avec Murray Walker sur la BBC. Alors, je vais pas revenir sur la carrière de James Hunt. Je crois que Ben, tu as fait une chronique qui nous permet un peu de cerner le personnage.
Ouais, j'ai fait ça il y a 2 semaines, je crois.
Voilà.
Une chronique où je faisais un peu un croisement entre la carrière de Hunt et de Raikkonen après le Grand Prix de Monaco.
Et donc on va plutôt se tourner vers Murray Walker qui est né en 1923 avec un père qui travaillait pour la Norton Motorcycle Company qui participait activement au fameux Tourist Trophy de l'île de Man. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une épreuve qui a plus de 100 ans, une épreuve de moto. Et donc, après la Seconde Guerre mondiale, il va débuter une carrière de commentateur, je crois à partir de 1949. Mais ce n'est que dans les années 70, avec l'acquisition des droits de diffusion de la F1 par la BBC en 76, je crois, qu'il va venir commenter les Grands Prix, d'abord de façon ponctuelle, puis à plein temps en 1978. Et en 79, après le Grand Prix de Monaco, James Hunt décide de prendre sa retraite, et la BBC va avoir cette idée qui, de prime abord, peut paraître saugrenue, d'associer le playboy anglais au commentateur anglais. Voilà, c'est quand même deux profils extrêmement différents et c'est quand même assez osé. C'est-à-dire que c'est comme si on associait, nous aujourd'hui, Kimi Raikkonen à Jean-Pierre Pernaut. À peu près. Voilà.
Le choc de culture, oui.
Tout à fait. Et donc finalement l'alchimie va bien se faire et va tellement bien marcher que le duo va devenir mondialement connu, notamment grâce au fait que la BBC dans certains pays, les diffuseurs reprenaient les commentaires à la BBC. Donc je pense par exemple à l'Australie, qui le fait d'ailleurs peut-être toujours aujourd'hui. Ils reprennent les commentaires de la Sky, ce qui fait qu'eux, ils n'ont pas à payer une équipe de commentateurs. Et donc en Angleterre, c'est un peu l'équivalent de notre duo Thierry Roland et Jean-Michel Larquet, quoi. C'est ce duo. On a tous des souvenirs de matchs avec Thierry Roland. D'ailleurs, on en profite un peu pour saluer la mémoire de Thierry Roland. Et pour les Britanniques, voilà, si on veut trouver un équivalent, je pense que ce serait le duo Murray Walker et James Hunt aux commentaires pour les Grands Prix. Et le succès de ce duo tient justement à la personnalité de ces deux membres, Murray Walker, qui est donc un professionnel, mais un professionnel de la bourde, et très chouchouté par les pilotes qui adorent lui faire des farces. Et de l'autre côté, donc James Hunt, qui n'a pas sa langue dans sa poche et qui a une finesse d'analyse qui est parfois très très intéressante. Donc c'est un peu ce mélange des choses qui fait que l'équipe marchait bien. Messieurs, je vais vous proposer un petit jeu qui est très simple, qui s'appelle le Murray ou le Hunt, ou le Walker et le James, voilà. Je vais vous donner des citations célèbres, et c'est à vous de nous dire si c'est de James Hunt, de Murray Walker, ou d'un autre. Voilà. Alors, je vais commencer par une première. Andrea de Cesaris devrait vraiment se faire appeler de Crasheris. Il a détruit tellement de voitures en essai, c'est embarrassant pour lui-même, pour l'équipe et le sport. Peut-être qu'il devrait se retirer.
Oh, ce serait bien Hunt, ça, non ?
Hunt, ouais.
Oui, ça, c'est Hunt. Hein. C'est un authentique fou de vitesse et il court avec agressivité et un énorme flair, mais il semble incapable de conjuguer ça avec du bon sens.
Walker ?
Ouais, pareil, Walker.
Walker.
Eh ben, c'est James Hunt à propos de Gilles Villeneuve en 1981.
À propos de Gilles Villeneuve ?
Ouais, à propos de Gilles Villeneuve. C'est étonnant.
Ah oui, oui, c'est clair.
Ensuite, la suivante. Ce sera la première victoire de Williams depuis la dernière fois qu'une Williams a gagné.
Ah bah ça c'est Walker.
Walker, ouais.
Ouais, je dirais Walker aussi, mais...
Oui, ça c'est typiquement Walker, voilà, il y a ces grandes phrases de Murray Walker qui sont des grands actes philosophiques, c'est-à-dire qu'on pourrait, je pense, écrire un livre juste avec ces grandes phrases. J'en ai un autre exemple, c'est par exemple, même dans 5 ans, il sera toujours 4 ans plus jeune que Damon Hill. C'est une profondeur incroyable. Alors ensuite, la suivante, est-ce que mes yeux me trompent ou la Lotus de Senna sonne rauque?
Hunt.
Ouais, je dirais Walker pour
un autre, comme ça on a le trio gagnant.
Eh ben non, c'est Walker. La deuxième grande spécialité de Murray Walker, c'est qu'effectivement, il a tendance parfois à vouloir dire un truc, mais se gourer de champ lexical. Donc là, c'est effectivement, c'est ses yeux qui se trompent, mais il parle du son de la voiture de Senna. Et il y a un autre exemple célèbre où il dit « Prost peut voir Mansell dans ses oreillettes ». C'est du Murray Walker. Ensuite, la suivante. Et il y a eu 5 courses jusqu'à présent cette saison. Brésil, Argentine, Imola, Schumacher et Monaco.
Oui, tu peux la refaire.
Écoute bien.
Et il y a eu 5 courses jusqu'à présent cette saison. Brésil, Argentine, Imola, Schumacher et Monaco.
Ouais, je redirais encore Walker.
Enfin, ben, je dirais Hunt, mais ouais, peut-être Walker. Je sais pas. J'ai droit à un joker.
Alors c'est Walker, on rappellera qu'il n'y a pas de Grand Prix Schumacher, enfin, pas aux dernières nouvelles. Alors dans le même genre, c'est pareil, il nous a aussi sorti un jour Murray Walker, le Grand Prix d'Italie à Monaco.
Pas mal, pas mal.
Voilà.
Ouais, c'est sympa.
Alors, puisqu'on parlait de Andrea De Cesaris tout à l'heure, recommençons avec Andrea De Cesaris, avec cette phrase. Andrea De Cesaris, l'homme qui a remporté plus de Grand Prix que n'importe qui d'autre, sans réellement en remporter le moindre.
Ah, c'est profond.
Mmh. Ouais. On va dire Walker, parce que tantôt c'était Hunt, donc...
Moi, je dirais autre, parce qu'il doit y avoir un autre dans toute la liste que
t'as. Ouais,
là, je tenterais pareil que Shinji, autre.
Eh ben, bravo Ben, c'est Murray Walker.
Belgium, one point.
Question suivante, enfin, phrase suivante. La voiture de tête est unique, excepté celle de derrière qui lui est identique.
Ouais, toujours Walker.
Walker.
Ouais, Walker.
Bah, c'est Walker.
Parfois, j'ai l'impression
d'être dans le jeu, on commence à les reconnaître.
Ouais, non, mais je me demande d'où je suis tombé parfois. Certaines.
Alors, la suivante, elle est très belle. Les voitures, je les aime autant qu'un tennisman peut aimer sa raquette.
Hunt.
Ouais, ça peut sentir Hunt, mais.
Bah ouais, là, ça pourrait valoir pour les deux. Ouais, vas-y, je vais faire collégial Hunt.
Oui, c'est James Hunt. Ça aurait pu être aussi Kimi Raikkonen, c'est assez son style, mais non, c'est effectivement James Hunt. Phrase suivante, Piquet n'a pas la moindre motivation. Il n'est en Formule 1 que pour garder son yacht de 45 mètres à flot et payer le kérosène de son hélicoptère.
Oh, c'est Hunt.
Ça pourrait être Hunt, et ça serait culotté en même temps.
Oui, c'est Hunt.
Il y a le côté, le côté saloperie envers un autre pilote, tu vois.
Faut savoir que Hunt, il a un peu ses têtes de turc, il aime beaucoup piquer. Et je crois de mémoire qu'il aime aussi beaucoup, beaucoup, Mansell.
Oh, voilà. Des types extrêmement galants, courtois, qui sont réputés pour être de très bons compagnons.
Ensuite, rien ne cloche sur la voiture, si ce n'est qu'elle est en feu.
Oh, Walker.
Oui, c'est Walker qui nous a aussi sorti une fois et rien n'est endommagé sur la voiture, si ce n'est la voiture elle-même. Allez, encore deux questions. Alors la suivante est pas mal. Rien ne presse chez Williams. Il est simplement très important de ne pas faire d'erreur et c'est tout à fait bien. Oh, et il perd une roue.
Ah, Walker.
Walker, ouais.
Eh ben non, c'est Jameson.
Ah, ça change. Ah, bon.
Qui parlait d'un arrêt de Mansell qui le prive de la victoire. Je crois que c'est au Grand Prix de Hongrie 87. Il y a une autre phrase du même genre de Murray Walker où là il parle de Damon Hill et il dit dans le dernier tour il dit Damon Hill je voudrais pas tenter le diable mais Damon Hill rentre dans son dernier tour pour ce qui pourrait être sa première victoire et Damon Hill ralentit oui Damon Hill ralentit et il s'arrête. C'est typiquement le genre de truc c'est faudrait dire à Malbranck qu'il écoute de temps en temps enfin, tu vois dans le dernier tour des fois il peut arriver un truc.
Oui bah c'est Hakkinen en 2001 aussi qui est en Espagne.
Oui, en Espagne
qui a connu le même genre de désagréments.
Et enfin pour finir sans doute la plus belle phrase. J'ai mal vécu les accidents qui ont coûté la vie à mes copains. C'est banal, mais ce sont souvent les plus sympas qui prennent, jamais les enculés.
Ah, celle-là, je la connais, c'est Jacques Lafitte.
Tout à fait, c'est Jacques Lafitte.
Ouais.
Jacques Lafitte qui est un peu la synthèse.
Oui.
À lui tout seul. De Murray Walker et de James. C'est-à-dire que il est capable, quand il le veut, de raconter des conneries énormes. Mais en même temps, il est capable, quand il le veut aussi, d'être aussi saignant que Hunt.
Ouais, mais, on a des bons aussi, hein, parce qu'il y a eu des.
La semaine dernière, je crois. Le Grand Prix dernier, au Canada. Je pense que c'est Moncey qui a parlé d'un drapeau bleu fugitif. Au lieu de furtif, mais c'est pas la première fois qu'il le fait, parce que j'ai déjà entendu, mais c'était de Lafitte, justement.
C'est le drapeau bleu,
n'est pas, laissez-moi faire peur,
un drapeau fugitif, ça m'a beaucoup fait rire.
Parce qu'en fait, c'était un drapeau bleu qui était tenu par un manchot. Le fameux manchot.
Mais je sais plus si c'était un drapeau bleu ou un drapeau jaune, enfin bref, il était fugitif, donc on l'a pas bien vu.
Donc pour finir, hein, surtout sur Murray Walker, donc quand James Hunt meurt en 93, d'autres pilotes vont se succéder jusqu'à Martin Brundle, hein, qui a pris la relève ces dernières années. Pour sa part, Murray Walker va continuer à commenter les courses jusqu'au Grand Prix des États-Unis 2001. En 2006, il va devenir ambassadeur de l'écurie Honda, où il accueillait et divertissait les invités, notamment en faisant pour les invités les commentaires de la course. Il va recommander un Grand Prix, ce sera en 2007, le Grand Prix de Grande-Bretagne, parce que le commentateur régulier avait apparemment un congé de paternité, et donc il l'a remplacé. Et depuis, il est resté au sein de l'équipe de la BBC, pour commenter les essais libres 3 et pour participer aux émissions d'analyse qu'il peut y avoir pendant le week-end. Voilà, il a d'ailleurs, je crois, un blog sur le site de la BBC.
Ouais, donc il est encore loin d'être à la retraite.
Mais voilà. Je pense que cette année, la BBC fait un top 20 des plus grands pilotes de tous les temps. Chaque mercredi avant les Grands Prix. Et je me demande si, pour certains, il n'y a pas une vidéo de Murray Walker qui passe en revue quelques souvenirs sur le pilote en question.
Alors Murray Walker, j'ai trouvé une citation pour le décrire, c'était que même quand il est calme, on a l'impression que son pantalon est en feu. C'est typiquement, je pense que ce qui nous manque nous aujourd'hui en France, c'est un commentateur qui a vraiment la passion et qui vit vraiment le truc. On le dit aussi un peu en ce moment avec le foot par rapport à Thierry Roland, où on dit que bah, finalement, malgré ses travers et malgré les conneries qu'il pouvait dire, ça reste quand même le dernier commentateur de football sur une grande chaîne qui vivait vraiment les matchs et qui était vraiment passionné. Là où on voit les Christian Jean-Pierre et compagnie, enfin, ils préfèrent parler de concours et compagnie qu'autre chose. Et c'est vrai que en Formule 1, c'est peut-être ça aussi qui nous touche, quoi. C'est qu'aujourd'hui, on n'a plus vraiment de commentateur qui est capable de s'exciter pour des courses, mais pour n'importe qui, quoi.
Ils sont peut-être un peu trop professionnels avant d'être fans.
J'avais entendu une remarque qui disait justement le problème des commentateurs aujourd'hui, c'est qu'ils analysent tout. Oui. Voilà. Ils analysent tout.
Non voilà, c'était tout pour le quiz et pour saluer la mémoire de James Hunt et puis aussi en profiter. C'est une question que j'avais sortie avant qu'on apprenne pour Thierry Roland et puis finalement elle est aussi un peu
circonstance, tout à fait.
Donc voilà pour saluer ces vrais commentateurs qui nous ont marqués.
Ah, c'était une belle question, ouais, c'est clair.
Et donc Shinji, tout ça nous fait
16
points de plus.
Oui, 15 à 11. Oui, j'allais dire 16, non, 15. Soyons modestes.
Voilà.
soyons.
C'est bien, Chizu, t'as assuré. Oui. C'est bien.
Bah, j'avoue que j'aurais jamais pu la trouver. Hein. J'avais entendu parler du nom du.
Il a fallu connecter le. C'est un pilote qui est vieux, mais pas trop vieux. Il y est arrivé un truc. Il était au Grand Prix, mais c'était pas un pilote. C'était qui est-ce? Merde.
Ouais, j'aurais pas fait le rapprochement, même si j'avais trouvé que, que c'est le pilote, ou même que c'est le fait qu'il soit commentateur.
Faut se rappeler, qu'il a été commentateur, c'est ça le truc.
Voilà. Mm. J'en ai entendu parler, mais j'aurais jamais fait le rapprochement sur.
En plus, c'est vrai que j'avais parlé, je sais plus quand, il y a un ou deux ans, de James Hunt. Ouais. Je m'en étais souvenu, c'est ça, qu'il avait fait les commentaires en plus.
Mm. Ouais, vous en avez déjà parlé lors des SAV sur les saisons précédentes, ouais. Mm.
Alors messieurs, on va passer au podium de l'actu.
Ouais.
Et l'enthousiasme.
Ah non, cette semaine, je suis enthousiasmé par le podium de l'actu. C'est
ouais. On sent que ça a été dur pour tout le monde.
Ouais, moi j'en ai même envoyé deux, tu vois, j'ai.
Oui.
Le service après-vente de la F1 vous invite à découvrir le podium de l'actu. Le seul podium au monde à géométrie variable.
Alors déjà, on va revenir sur le sondage d'il y a 2 semaines. Alors, souvenez-vous, on vous avait demandé quelle était l'actu dont tout le monde se fout, hein, pour une fois. Vous avez été 45 à voter, hein, merci encore. Alors, je vais pas citer les 8 choix, je vais donner le podium, le podium parmi les 8, hein, sachant que seulement les 3 premiers ont fait plus de 10%. Donc, est arrivé 3e avec 5 votes, Mercedes en confiance pour le Canada, hein, 11,11%. En 2e place... Pourtant, je pensais que ça vous aurait plus intéressé. 7 votes, le revenu des pilotes, 15,56%. Mais le grand champion, hein, j'ai envie de dire, c'est une classique, hein, 21 votes, 46,67%. La cotation de la Formule 1 repoussée à la fin de saison.
Ah,
là,
merci.
Là.
On savait que tout le monde s'en foutait. Hey. Non, t'as perdu. On a dit que tout le monde s'en foutait.
À sa façon, il a gagné.
Ah, je suis premier.
Oui, mais il a perdu sur le fond, j'ai dit.
Ah, j'ai
ne le laissons pas croire, c'est pas bon pour lui.
Ah non, les gens n'ont pas le sens de la réalité, voilà, hein, c'est tout ce que j'ai à dire, tant pis. Je les comprends, hein, parce que même moi, quand j'en parle dans mon entourage, je commence à me jeter des pierres, mes parents me mettent dehors.
Ils t'envoient à flin.
Voilà.
Exactement, j'étais puni.
Ouais, c'est mérité.
Mais la vraie question, c'est ai-je réédité mon...
Non, je dirais que cette semaine, c'est pas toi le pire.
Ouais. À mon avis, ça doit être moi, parce que honnêtement, j'ai eu un mal fou à trouver des actus.
Non, je me sens menacé aussi.
Non.
Ah, il y a mieux.
Ah oui, non, c'est vrai qu'il y a Fab et Gus aussi dans la course.
Ouais. Moi, il y a mon feeling. Et après, on verra, on en rediscutera. Mais parlons d'abord des actus qui nous ont intéressés. Hein, même c'est vrai, ça a été un peu compliqué, surtout pour moi, parce
à chaque fois au Grand Prix du Canada.
Oui. Surtout pour.
Non, mais c'est vrai. Avec le transport en Canada et compagnie, les équipes à prévoir, bah, oui, rien. Elles annoncent rien. C'est super chiant le Canada, en fait.
Alors d'abord, on va commencer par cette actu. Alors, pour vous dire le niveau de cette semaine, Rosberg et Mercedes jouent le titre.
Ah oui, ça sent super intéressant. Waouh.
Moi, je l'ai mis en premier parce que je dois avouer que quand je l'ai parce que quand je l'ai lu, ça m'a fait vraiment, voilà, j'ai rigolé, quoi. Ça j'étais pris d'un légitime fou.
Ah non, mais moi c'est pas le titre, le fait qu'il joue.
Mathématiquement, Toro Rosso peut gagner.
Ouais, ayant, il peut être champion du monde. Hein,
non, mais moi, au-delà du fait que Mercedes annonce qu'ils jouent le titre, en même temps, vu le.
Non, mais toi, c'est attendu.
Vu l'écart, c'est logique. Là, je l'ai mis 5e, moi seulement. Hein. Mais non, moi c'est parce que ce qui m'a fait rire, c'est Rosberg qui dit qu'il a une voiture pour gagner partout. Moi, ça m'a fait rire parce que la Mercedes est probablement pas mauvaise, mais c'est pas non plus la meilleure voiture du plateau.
Non.
Alors, pour moi, la meilleure, ça reste la McLaren, qui a loupé quelques occasions de faire l'écart au championnat.
Mais laissez-le.
Mais sûrement pas la Mercedes.
Il est jeune, il est plein d'espoir.
Alors, en fait, c'était un peu plus pour me moquer de Rosberg que pour l'info en elle-même, parce que tout le monde peut jouer le titre. Enfin, je veux dire, ici, cette saison, les candidats manquent pas.
Non, mais sincèrement, les déclarations de Rosberg, elles sont d'une banalité affligeante. Enfin.
Ah ouais. Non, il est très très corporate. Hein. Moi, j'adore le pilote, mais une fois qu'il est hors de sa voiture, il est un peu ennuyeux. Ah, et un peu. C'est parce que je suis gentil.
Ah non,
il... Je sais pas, faut qu'il prenne une dose de son père ou un truc dans là. Enfin, oui. Voilà, faut qu'il se démerde, quoi.
Oui, parce que Keke, pendant les essais de Barcelone, nous a quand même sorti « Oui, j'ai peur, pour la météo, on pourrait avoir de la neige. » Je veux bien qu'il faisait pas de top en février, mais de la neige...
Non, c'est, c'était, ouais, non, il a l'art de parler pour rien dire, c'est, il le maîtrise, ouais, c'est vraiment, il est au summum
c'est
de cet art-là.
Langage corporate, parler
pour... Ouais, ah, mais ouais. Je sais plus quel pilote, disait que Mercedes le tenait vraiment et que ce serait sympa de voir ce qu'il pourrait dire si on le lâchait un peu. Mm. Bon. C'est pas encore demain que ça va arriver, hein.
Allez, parlons d'une autre équipe et d'autres pilotes d'une équipe avec les pilotes Lotus, Grosjean qui impressionne et Raikkonen qui pour l'instant n'inquiéterait pas Boullier. Non mais c'est bon, il a fait deux courses moyennes, c'est bon.
Alors mais moi j'avoue que je commence à avoir un petit peu peur. Mais bon.
Est-ce que tu es au niveau Stéphane Brignot?
Non, pas du tout. Non, yeah.
Alors Chigi, je te déconseille d'aller lire la chronique de Stéphane Brignot.
Mais en même temps, ça ne m'étonne pas de lui, hein, parce que c'est pas la première fois que j'ai envie de mettre des claques à Stéphane Brignot. Et parfois, quand il ne parle pas forcément de Kimi Raikkonen.
Moi, j'ai découvert ce monsieur cet après-midi, donc voilà, la rencontre n'est pas très concluante, mais...
Il a cette tête.
Ah, mais bon, c'est vrai que.
Et lui, c'est ma tête de turc. C'est cyclique.
Non, mais en même temps, je veux dire, ce qui ressort dans cet article-là et dans le fait que beaucoup de gens commencent à éventuellement s'inquiéter et se dire, ah, Raikkonen, machin, c'est pas nouveau. Enfin, je veux dire, c'est du Raikkonen tout craché. L'histoire du casque à Melbourne, c'est la même chose que le coup de la glace à Sepang en 2009. Enfin, je veux dire, Lotus savait à quoi s'attendre en l'engageant.
C'est ça le truc, c'est.
Rapide, mais c'est un peu pas.
Voilà, on a l'impression que les gars de chez Lotus, ils découvrent qui est Kimi Raikkonen. C'est bon,
bah,
quoi.
Bouquet, il était pas là en 2009, hein, donc.
Oui, mais... je me permets quand même de dire que quand en début de saison, on osait rappeler et ne serait-ce dire que on a toujours un peu douté de l'intensité de l'investissement de Kimi Raikkonen, notamment dans sa dernière année chez Ferrari, on se faisait blackbouler par des lecteurs et compagnie. Aujourd'hui, c'est vrai que la question, elle se repose. Est-ce que c'est pas un travers de Kimi Raikkonen que, enfin, moi, je sais que le Grand Prix de Monaco, moi, c'est ce qui m'a convaincu que Raikkonen avait finalement pas changé. Je pensais qu'il serait plus déterminé, mais que finalement Raikkonen n'a pas changé. C'est voilà, c'est si ça lui convient pas, bah, il se fait pas chier, il va même pas faire un tour. Et c'est vrai que il faut, je pense, se poser des questions sur le cas Kimi Raikkonen, même si c'est vrai que c'est rien de nouveau. En tout cas, sa situation aujourd'hui chez Lotus n'est pas forcément aussi facile que ce qu'on pouvait dire en début de saison.
Il a toujours été comme ça, donc moi j'y vois rien d'étonnant, il l'a toujours été. On peut très bien voir d'ici, comment dire, quelques courses, ou même la prochaine, qu'il en gagne une, deux ou trois. Il a ses moments sur
lui,
la saison.
C'est tout à fait lui, voilà.
C'est Raikkonen. Raikkonen a toujours été comme ça. Je vois pas pourquoi est-ce que les gens se mettent dans l'idée qu'il pourrait changer. Si les gens de Lotus ont cru qu'il allait...
Parce qu'on nous l'a dit, parce que Lotus l'a dit en début de saison, parce que Kimi Raikkonen aussi a véhiculé un peu ce message de « Oui, je reviens en Formule 1 parce que finalement, je me suis rendu compte que j'aimais ça. » Donc les gens ont cru qu'il allait peut-être changer et compagnie. Moi, sincèrement, je vous ramène au début de saison, relisez les commentaires de certains fans qui nous disaient qu'il allait développer. Voilà, il suffit juste de voir les déclarations qu'a fait Villeneuve il y a 10 jours quand il dit que Raikkonen, vous mettez un Alonso, un Vettel ou un Hamilton à la place et la voiture aurait déjà gagné. Les gens tombent sur Villeneuve, alors que Villeneuve, il n'a pas nécessairement tort. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, on met un Alonso chez Lotus. Alonso, il a déjà gagné au moins une ou deux courses.
Ouais, mais c'est sûr que Raikkonen... Fin...
Après, c'est les gens qui s'aveuglent. Hein. C'est les gens qui ont cru qu'il allait changer. Oui. Effectivement, il n'y a aucune raison de penser qu'il allait changer. Ouais, ouais. Mais c'est vrai qu'il y en a certains qui ont eu tendance à écrire l'histoire en nous faisant croire que chez Ferrari, par exemple, Kimi Raikkonen... Non, il ne s'était pas démoralisé. Oui, à un moment donné, il en foutait plus une, quoi. Faut dire
moi, honnêtement, je sais pas, je sais que Shinji est aussi un grand fan du bonhomme, mais je ne me suis jamais fait l'image d'un pilote. J'ai souvent dit, c'est un très très bon pilote, mais à l'inverse d'un Schumacher ou d'un Alonso, qui eux portent véritablement leur équipe, développent les voitures. Et Schumacher, on a souvent dit qu'il pouvait téléphoner à n'importe quelle heure à Ross Brawn pour savoir quel type de pneu tel pilote utilisait à telle période d'essai. Raikkonen le fera jamais.
Écoute, souviens-toi même, moi, que l'an dernier, j'avais des doutes sur le fait que Raikkonen puisse revenir chez Lotus. Pourquoi ? Parce que je considérais que Lotus avait besoin de quelqu'un pour la mise au point de la voiture, et que t'as beau être fan de Raikkonen, faut bien admettre que c'est tout sauf un expert de la mise au point des voitures.
Moi, je me suis fait le même type de réflexion quand on a parlé de lui chez Williams. Je me suis dit, mais quel est l'intérêt pour un type comme ça d'aller chez Williams, qui sera une écurie qui forcément ne gagnera pas des courses. Enfin, ici, elle en a gagné une, mais c'est aussi parce que la saison est un peu folle. Mais qu'est-ce que l'intérêt à l'époque avait Raikkonen d'aller dans une écurie qui, en 2011, n'était nulle part et qui, en 2012, ne donnait pas de garantie de résultats probants. Parce que lui, la seule chose qui l'intéresse, c'est la victoire. Et pour qu'il gagne, il faut que son équipe lui fournisse une voiture capable de gagner. C'est pas lui qui va faire progresser l'équipe pour qu'elle puisse avoir une voiture parfaite. C'est l'équipe qui doit la lui donner.
Mais c'est aussi l'erreur de Lotus en début de saison qui nous disait, oui, finalement, la réputation de Kimi, comme quoi c'est pas un bon metteur au point et compagnie, bah, c'est faux, il sait ce qu'il veut. Oui, il sait ce qu'il veut. Mais le problème, c'est que si la voiture ne correspond pas à ce qu'il veut, il va pas chercher à résoudre le problème, il va attendre que ce soit l'ingénieur qui trouve la solution. Mais finalement, on a l'impression que Grosjean est davantage l'équipe que Kimi Raikkonen.
Oui, et puis il y a aussi le fait que Grosjean, l'air de rien, est un rookie et qu'il a, entre guillemets, un peu moins, qu'il a peut-être tendance à moins la ramener. Aussi que Raikkonen qui est champion.
Bah ils ont un peu tendance, c'est vrai,
plusieurs saisons derrière lui.
Ils ont un peu tendance à accepter très facilement des choses de Raikkonen.
Ah oui, ça marche peut-être aussi dans les deux sens, ouais.
Oui, mais la différence c'est que Grosjean, il a eu un rôle de pilote essayeur, donc il a déjà été impliqué au développement de la voiture, donc ça lui paraît naturel d'aller aider les ingénieurs ou aider au développement de la voiture, d'aller plus loin
sur
la voiture.
Pour tout pilote, ça doit être naturel.
Ouais, non, mais Raikkonen, depuis son début de carrière, je l'ai jamais vu être impliqué de cette façon-là. Ça n'a pas été dans sa carrière quelque chose de naturel à faire. Pour moi, Raikkonen, c'est un compétiteur, mais c'est pas un champion.
Oui, mais moi, ce que je veux dire par rapport à la différence entre Raikkonen et Grosjean, c'est que Grosjean aura peut-être plus tendance à se dire, comme je suis un rookie, que j'ai moins d'expérience, c'est peut-être aussi un peu plus à moi de me faire à la voiture plutôt que l'inverse. C'est aussi, parce que lui, il a un apprentissage à faire, que Raikkonen, finalement, il a dû se réadapter, mais il n'a plus forcément à faire. Et c'est là aussi que la différence se joue. À Monaco, c'est flagrant. Grosjean, la direction marche. Pour lui, il essaye de la faire fonctionner. Raikkonen, il fait un tour, ça marche pas à son goût, il rentre.
On la change.
On sort plus.
Ah mais Grosjean, il a la vision du fait de développer la voiture que tu peux compenser tes faiblesses par des réglages. Et ce que Raikkonen n'a pas, lui, c'est directement tu lui donnes la voiture parfaite, il n'ira pas à la recherche d'améliorer ce qu'on lui a donné entre les mains, quoi. C'est plus un pilote d'instinct, quoi. Faut qu'il ait un ressenti parfait avec la voiture. Mais il ne fera pas l'effort de dire, ouais, tel point est amélioré ou de connaître techniquement le mieux possible la voiture, quoi.
Mais si on regarde la saison 2009 chez Ferrari, moi en 2009, j'ai plutôt l'impression que le bon début de saison, il est à mettre au crédit de Massa, qui fait vraiment, qui porte l'équipe, et que malheureusement arrive l'accident de Massa, et derrière, Kimi Raikkonen se réveille parce que il a enfin une voiture qui peut performer, et que voilà, s'il a la voiture au bon moment, il fera des trucs bien. Derrière, s'il a pas la voiture, il va chercher à avoir la meilleure voiture, mais j'ai pas l'impression que ça se fasse dans l'intérêt de l'équipe, mais plus dans son intérêt à lui. Là où c'est vrai que c'est pareil pour Alonso, par exemple, on va pas non plus dire que Alonso il développe la voiture dans l'intérêt de l'équipe. Alonso il dit à Ferrari voilà je veux ça et Ferrari le fait. Mais on a l'impression que c'est plus dans une discussion, c'est-à-dire que c'est pas chez Kimi il y a quasiment cette impression. Moi je reste sur Monaco, il a quasiment l'impression d'un caprice quoi. C'est qu'est-ce que ça coûtait à Kimi Raikkonen de faire 5-6 tours en plus à Monaco pour évaluer la direction, collecter des data et compagnie, qui aurait pu aider l'équipe. Il en a fait un, il est rentré, il a dit c'est bon ça me convient pas, on en change. Là où un Alonso, un Vettel, un Hamilton, même si ça leur convient pas et qu'ils vont demander à changer, derrière ils vont quand même travailler avec l'équipe pour aider quoi. C'est dans la chronique de Vrigneault, si ce qu'il dit est vrai, si les bruits qui courent apparemment du côté de Lotus sont vrais, quand tu entends que le pilote numéro un de l'équipe, ancien champion du monde, quand les ingénieurs l'appellent, il répond plusieurs jours après. Enfin, moi je comprends pas comment le mec peut espérer gagner en n'entretenant pas une véritable relation avec ses ingénieurs, surtout dans la Formule 1 actuelle. C'est pas possible. Enfin, je vois pas comment tu peux faire, sincèrement.
Non, mais Raikkonen, c'est un peu le modèle des, ouais, c'est un pilote qui s'est...
Il est pas né à la bonne époque, hein, il le dit lui-même. Hein.
Oui. Exactement. Pardon. Exactement. C'est ce que j'allais dire, quoi. Il aurait été plus présent dans les années 70 ou autre. Voilà, c'était plus un, c'est un pilote d'instinct, mais voilà, il lui manque la fougue. Il lui manque, cette niaque qui pousserait justement à développer le moteur.
Moi j'ai l'impression que finalement un des rares circuits où on a un Raikkonen qui peut aller chercher un truc avec une voiture un peu moins bonne, c'est à Spa-Francorchamps.
Ouais.
Parce qu'en 2009, avec la Ferrari, c'est un peu ce qui s'est passé, au
c'est
final.
Ce qui s'est
parce
passé,
que sa voiture n'était pas exceptionnelle.
C'est son circuit en même temps.
Et c'est vraiment son circuit. C'est,
Bah, c'est là qu'il prouve que techniquement, il a un talent pur, quoi. Surtout sur un circuit tel que Spa, quoi. Mais c'est vrai que cette volonté de pas vouloir, bah, ce manque de volonté de vouloir développer, c'est la chose qui l'aura handicapé tout le long de sa carrière, quoi.
On a parlé de Spa, on va parler d'un autre Grand Prix, le prochain Grand Prix, Valence, qui a des problèmes de billetterie. Qui a des problèmes de billetterie, ils n'arrivent pas à vendre leurs billets. Et pourtant, je crois qu'ils ont déjà réduit le nombre de places sur le circuit. Hein.
Ouais. Parce qu'il y a des gens qui achètent des billets.
Oui, il y en a.
Ouais, faut dire que les billets de Valence sont pas chers.
Ouais, et en même temps, ils vont manquer de spectateurs, parce qu'il y avait eu la nouvelle qui est tombée aussi dans la journée du Simply the Ticket, le site où on pouvait acheter des tickets qui a fait faillite, et il y a des gens qui avaient acheté des places pour Valence qui n'ont rien reçu, et il est impossible de réussir à les joindre. Donc,
idem pour Silverstone d'ailleurs.
Sincèrement, je pense que moi je serais les organisateurs, je dirais allez hop, venez, ouais. Moi vous remplirez les tribunes, quoi.
C'est vrai que c'est impressionnant. On voit qu'au démarrage, ils avaient prévu à peu près 110 000 places pour arriver désormais à quoi, 38 000 places.
Il y a pas 110 000 places.
La première année.
110 000 visiteurs, mais pas 110 000 places.
La première année, il avait été fixé un objectif à ouais, c'est 110 000 ou 112 000.
Ouais, 110 000 visiteurs sur l'ensemble du week-end, mais pas 110 000 places.
Non, bah, 112 000 places avaient été. Attends. Hein,
non, parce que t'as même les gens qui sont en tribune. Il n'y a pas 112 places tribune. 112 000 places tribune.
La barre avait été fixée. Alors, cela représente une note des venues pour cette épreuve. La barre avait été placée à un haut niveau puisque 112 000 places avaient été prévues lors de la première édition.
Ouais, mais c'est pour le week-end.
Oui, bah, c'est pour l'ensemble du week-end.
Lors de l'édition inaugurale, l'organisation était parvenue à faire le plein, mais depuis la situation s'est largement détériorée puisque le nombre de places assises avait déjà été réduit à 65 000 places lors de l'édition 2011. Ensuite, pour arriver cette année.
De toute façon, faut jamais se fier aux premières années.
Oui, c'est
tous les circuits font le plein la première année. Là, aux États-Unis, ça fera le plein la première année. D'ailleurs, ils sont très optimistes parce que il y a beaucoup de demandes. Mais les premières années, c'est toujours plein. C'est à partir de la deuxième année qu'on voit réellement si ça a pris.
Ouais, il faudra voir déjà cette année en Inde.
En Inde, ouais.
Mais en Espagne, en Espagne, c'est un peu logique. Je veux dire, la situation économique du pays est quand même pas bonne. Il y a un Grand Prix à Barcelone.
Et pourtant, ils disent qu'une majorité des billets ne sont pas achetés par les Espagnols, hein. C'est par les étrangers.
Ouais, mais en dehors de ça, le circuit est chiant. Enfin,
bien sûr.
Mais c'est ça aussi le truc, c'est qu'il n'y a pas non plus que l'Espagne qui est touchée. Il y a aussi toute l'Europe qui est touchée. Donc, enfin, moi, je dis personnellement, je devais aller à Valence pour le compte de Fan F1. C'est pas le prix du ticket qui t'arrête. Ce qui t'arrête, c'est le prix des hôtels. Enfin, oui. Moi, je vois que j'ai regardé pour 4 jours, à 2 mois du Grand Prix, c'est minimum 1500 euros pour un hôtel en centre-ville. Voilà. Alors, certes, le Grand Prix est pas cher, mais derrière, l'hôtel est super cher. Voilà. Si tu rajoutes à tout ça l'avion. Tu rajoutes aussi sur le fait que, bah, par conséquent, les sponsors, vu que c'est la crise, ont pas non plus envie d'étaler, faire des grands événements qu'il y a autour. Voilà, c'est pas Monaco, où Monaco, tu peux te permettre de claquer du blé, de montrer que t'es riche et compagnie. On s'en fout, à Monaco, il y a que des riches. Les gens vont pas gueuler parce que c'est la crise.
Mais c'est vrai que,
en Espagne,
il paraît que même à Monaco, ça commence à se voir.
Mais c'est vrai que le prix des hôtels, moi j'avais regardé, puisque j'ai été couvrir les essais de février pour Fan F1 et que je suis retourné au Grand Prix au mois de mai, bah, le prix de l'hôtel où j'avais été pour les essais avait triplé, quoi. C'était hallucinant, enfin, je veux dire, et en plus ça avait triplé et j'avais une nuit en moins. Donc, oui. Avec impossibilité dans ce cas-là d'annuler en cas de au cas où on n'aurait pas eu notre accréditation.
Oui, c'est toujours bien.
Donc j'ai pris ailleurs, mais j'ai pris à Barcelone même et j'avais une bonne demi-heure de train tous les jours, quoi, pour aller à Montmeló.
Ouais, mais les billets c'est quand même pas donné, quoi. Qu'on dire pour deux jours le samedi et le dimanche. C'est allègrement, ouais, largement au-dessus des 100 euros, ça frise les 100, 120 euros.
Mais c'est pas cher.
C'est pas cher.
Quand tu regardes les autres week-ends de Grand Prix, t'as des Grands Prix pour ne serait-ce que le dimanche, c'est 500 euros.
Purée, moi c'est...
Ah non, t'as des Grands Prix, c'est super cher.
Ouais, c'est quand même...
C'est pour ça que justement, c'est le paradoxe, c'est que Valence, c'est une bonne occasion. C'est pas cher. C'est en Europe, c'est peut-être le Grand Prix le moins cher qu'il y a en Europe. Mais le problème, c'est que derrière, bah, il faut l'hôtel, et que les hôtels...
Bah oui, c'est super cher, puisque il y a que sur la billetterie qu'ils peuvent récupérer de l'argent.
Bah oui. Et comme les prix demandés pour avoir le plateau sont exorbitants,
voilà.
C'est un peu logique que les prix soient comme ça, quoi. Au niveau du circuit, en tout cas.
Puis après, c'est vrai qu'il y a le tracé qui joue aussi, hein.
En même temps, c'est un Grand Prix qui est un peu sur la sellette. Enfin, on parle déjà d'une alternance entre Valence et Barcelone.
Ah, c'est le dernier Grand Prix d'Europe, théoriquement, puisque l'année prochaine, il y a l'alternance.
Voilà.
Ouais. Et normalement, l'année prochaine, ça commencerait par, par Barcelone.
Ouais.
On en vient à dire ouais pour Barcelone, c'est possible.
Ceci dit, c'est vrai qu'aucun des deux circuits espagnols n'est vraiment... voilà, quoi.
Et par contre, j'hallucine, tu vois, moi, ce week-end, 2 jours, 67 euros pour assister à 4 heures. 24 heures du Mans, 2 jours, 67 euros, enceinte générale. J'ai profité, je crois, d'une petite réduction par le CE du boulot, mais...
Mais tu sais que pour aller voir les mêmes voitures, globalement, à Spa-Francorchamps pour les 6 heures, enfin avant c'était les 1000 km, je crois que si tu veux payer ta place, pas en tribune, enfin je me suis dit si tu t'attaques sous tribune en fait, c'est 15 euros ta journée quoi. Et c'est les mêmes voitures qu'au Mans. Sur le même circuit qui accueille la Formule 1.
Comparativement, c'est super cher au Mans, c'est ce que tu veux dire.
Non mais 67 euros, c'est pour les 2 jours ou la journée?
Ah, les 2 jours, c'était
67 euros. Ça reste raisonnable. Mais je veux dire, tu vois, il y a quand même aussi, c'est pour dire que l'écart avec la F1 est énorme.
Bah oui, c'est clair, parce que je sais pas, le but c'est de faire venir les gens. Si tu abaisses le prix, même tu l'aurais dû par deux, tu augmentes forcément ta masse entrante.
Et paradoxalement, au 1000 km, il y a presque pas de monde. Alors que de nouveau, c'est quand même une course assez intéressante, puisque c'est les mêmes voitures qu'au Mans.
Ouais.
Donc c'est pas des petites voitures, c'est pas des deux chevaux, quoi, tu vois.
Ah, non, attention.
Même si on a,
il y a presque des deux chevaux, mais... Puisque sur Eurosport, sur lequel ils ont pas arrêté de dire que les routes de la Delta Wing, c'était des routes de chevaux. Alors, ça a été leur grand prix du week-end. J'étais tellement content quand la Toyota a foutu la Delta Wing dehors. Je me suis dit, ils vont plus en parler.
J'ai aussi dire un truc. Bon, je suis comme tout le monde, j'adore les 24 heures du Mans. C'est une course magnifique. C'est peut-être une des plus grandes courses du monde. Par contre, alors, je sais pas si c'est un peu la CO et beaucoup les commentateurs, il y a un moment où c'est tellement merveilleux que c'en est trop. C'est-à-dire que les 24 heures du Mans, c'est la plus grande course du monde. Les 24 heures du Mans vous rend beau. Les 24 heures du Mans vous rend riche. Enfin, c'est limite de l'arrogance. Et en plus, souvent, hein, quand tu as dû avoir les remarques, parce que c'était déjà le cas, t'as toujours... Ah, vous avez vu, hein, 24 heures du Mans, c'est comme ça. Hein, parce que en F1, ils font pas comme ça.
Mais rappelle-toi l'an dernier, où ils ont passé toute l'édition à dire « Ah, c'est mieux que la F1, c'est mieux que la F1 ». Et le soir même, t'as le Grand Prix du Canada.
Oui.
Non, moi, je me suis fait une réflexion avec les 24 heures. Bah, je l'ai mise sur Twitter, d'ailleurs. J'ai regardé les qualifications. C'était le jeudi soir, je crois.
Oui.
Et ils ont commencé à expliquer les catégories. Alors autant les LMP1 et LMP2, ça va.
Ça va.
Mais alors dès qu'ils sont passés à la partie GT, avec les GT Pro, les GT Amateurs, et dans les GT Pro, tu as les catégories de pilotes avec des platinum, des or, des argent, des bronzes.
C'est les catégories de pilotes qui est important.
Je me suis dit, et dire qu'on dit que les pneus en F1, c'est compliqué.
Parce que si, quand tu les écoutes, le règlement par exemple de les 24 heures du Mans, c'est parfait. Le règlement est parfait. Ah, quand on évoque le mot équivalence, non, il y a jamais de souci au niveau des équivalences aux 24 heures du Mans. Pas du tout.
Ah bah d'ailleurs, Toyota, c'est pas du tout plainte, ça.
Voilà. C'est pas sur l'épreuve en elle-même, parce que c'est une magnifique épreuve, mais un peu de calme. L'endurance, c'est vrai, ça marche très très bien, et c'est très bien, mais un peu de calme.
Je sais pas, je comprends pas ce que vous dites là. C'est la plus grande épreuve au monde. Il est prouvé par les sondages que c'est l'épreuve sportive automobile la plus connue au monde, la plus suivie juste derrière les JO. Donc voilà quoi.
Ce qui est vrai, c'est
que non mais je comprends. Il y a un poil d'arrogance.
Attention, hein, c'est pas contre l'épreuve en elle-même. L'épreuve en elle-même est magnifique, ça, il y a pas de souci. C'est plutôt dégonfler un peu le citron, quoi.
C'est un peu tous les sports. Enfin voilà, les commentateurs de foot te disent qu'il y a aucun autre sport qui provoque les mêmes sensations. Les commentateurs de Formule 1 te disent qu'il y a aucun autre sport qui provoque les mêmes sensations.
Il y a cette fameuse phrase hein, nous sommes le plus grand sport après les Jeux et la Coupe du Monde.
Oui.
Roland Garros. Est-ce que tu crois pas que
l'Euro après les Jeux et la Coupe du Monde, la Formule 1 après les Jeux et la Coupe du Monde. Il y a 40 de sports qui sont troisième après les Jeux et la Coupe du Monde.
Le curling, nous sommes le plus grand sport devant les Jeux et la Coupe du Monde.
C'est les seuls.
Est-ce que tu crois pas que les Américains en font aussi 3 tonnes avec les 500 miles chez eux?
Ça sent mal, mais c'est
ouais, aussi avec le Super Bowl. Pour prendre autre chose que le sport auto.
Ah non, ne m'énerve pas. Le Super Bowl, c'est le plus grand sport du monde.
Voilà, le Super Bowl.
Tu diras pas ça la saison prochaine.
Non, mais après,
la plus grande page de pub de la télé, ouais. Super Bowl.
Après, je pense que d'abord, Steph Core, on va d'abord s'occuper de cette saison. J'aimerais pas te rappeler les résultats finaux à la fin en conférence et dans le Super Bowl.
Ouais, non, mais nous, on joue avec handicap. Nous, on n'a pas un quarterback. On a je sais pas quoi. Ouais.
Nous, on en a un sur un match sur deux.
Mais oui.
mais je pense aussi que c'est lié aussi à l'aspect populaire. Il y a une dimension, je trouve, qui a beaucoup dans les 24 heures du Mans, qui a beaucoup dans les, que ce soit l'IndyCar ou la NASCAR, et qu'on est en train de perdre en Formule 1. Ouais. C'est le côté populaire,
oui, ça, c'est vrai.
De masse. Mmh. C'est vrai que moi, pour avoir vu un Grand Prix à Monza dans la partie VIP, on a l'impression qu'on chouchoute bien les VIP et puis qu'après les spectateurs, c'est pas forcément le plus important. En tout cas, dans la F1. Après, pour les organisateurs du circuit, ils savent très bien que c'est très important parce que c'est là qu'ils font leur beurre. Mais pour la F1, l'image qu'ils veulent renvoyer, c'est le côté VIP, c'est les people et compagnie. Enfin, moi, j'en ai rien à foutre de voir Will Smith à Monaco, quoi. Je préfère largement voir la foule envahie à Monza. Je préfère voir les tribunes britanniques au Grand Prix de Grande-Bretagne ou les drapeaux allemands dans la tribune Schumacher à Hockenheim, quoi. Enfin, c'est ça qu'on veut voir. Et je trouve qu'aujourd'hui, on nous le vend plus. On préfère nous vendre la F1 paillette, la F1 people.
S'il y a plus, enfin, je crois que je l'avais déjà dit quand j'avais été à Francorchamps, mais s'il y a plus personne dans ces tribunes-là, dans les places bronze, sur les talus, etc., ça fera plus bien pour le VIP de venir, parce que venir sur un truc où il y a plus personne, où ça fait plus bien que quand tu sors de là, tu te dis waouh, j'ai été en VIP à Francorchamps, parce que plus personne n'a envie d'aller, même en bronze ou dans les tribunes, il y aura plus de VIP non plus, donc il faut pas négliger les deux, quoi.
Ouais, mais
et le vrai fan, je suis désolé, le vrai fan n'est pas en VIP.
Ah non.
Ah je le savais.
Oui, c'est
parce que le mec qui est en VIP, c'est des sociétés qui ont acheté les places le plus souvent et qui invitent des gens et on leur dit le gars à qui on propose la place se dit ah bah ouais tiens, c'est l'occasion d'aller voir un Grand Prix. C'est pas le vrai fan.
Le vrai fan c'est pas le VIP à Monaco hein, c'est le type qui va rester à Spa sous 3 heures de flotte, voilà, c'est ça. C'est ça.
Mais même je te dis enfin, je vais prendre mon exemple. Moi quand je vais à Monza, tout le monde est sur le bord pour voir le départ et après tout le monde va bouffer les petits fours et regarder les écrans. Voilà. Alors que moi, sincèrement, la course, j'en avais rien à foutre. Moi ce que je voulais c'était être dehors, voir les arrêts au stand, voir les voitures passer devant, voir la tribune en face avec les tifosi. Ce qui m'intéresse c'est l'ambiance plus que le reste. Voilà, c'est l'odeur, c'est les émotions que je peux avoir. Alors que les autres ils viennent, ils bouffent, ils regardent la télé, et ça je peux le faire chez moi, ça sert à rien.
Mais pour revenir sur le côté bon enfant aussi du Mans, c'est Nick Heidfeld, qui j'ai lu ça quelque part, qui a participé cette année aux 24 heures et qui faisait justement la réflexion qu'il avait passé beaucoup de temps même dans le paddock avec à croiser des fans, etc., que c'est quelque chose qu'il n'y avait pas du tout en Formule 1. Et c'est vrai, parce qu'en Formule 1, à part les journalistes dans le paddock, c'est les gens qui ont des tickets VIP qui se promènent et qui font
c'est ce que je disais dans une des dernières émissions, quand tu penses que des gens qui sont employés par Pirelli n'ont pas accès librement au paddock. Ils sont obligés d'appeler responsable presse ou compagnie pour qu'ils viennent leur apporter un pass pour qu'ils puissent rentrer dans le paddock. Même les VIP en Formule 1 n'ont pas accès librement au paddock. C'est terrible.
C'est terrible.
Les VIP, ils sont dans leur cage. Ils ont leur entrée, ils vont au-dessus des stands et ils ont le droit d'aller que là. Alors qu'effectivement au Mans, t'as Tom Christensen qui est 8 fois vainqueur du Mans et qui signe des autographes, qui parle avec des gens parce que tu peux accéder au paddock librement.
Et donc pourtant, je sais qu'il y a du monde aussi au Mans.
Précisons que c'est bien Nick Heidfeld et pas Neil Heidfeld, hein, et que c'est Alexander Wurst et pas Alexander Wurst. Surtout que Wurst, ça veut dire quelque chose en allemand.
Non mais il y a aussi à comprendre le mode de fonctionnement de la F1, c'est les droits à l'image, c'est ça qui leur apporte de l'argent, donc ils sont obligés de privilégier le sponsoring, c'est toutes les arrivées indirectes qui font vivre la F1. Une épreuve comme Le Mans, c'est les entrées qui font vivre l'épreuve.
Oui.
Donc à partir de ce moment-là, il y a l'obligation de chouchouter un peu plus le public. Ça va être le nombre de spectateurs, il y en a eu 240 000 sur le week-end. Donc tu vois, ça fait une masse.
Mais c'est là la différence, c'est que dans les 24 heures du Mans, l'organisateur, c'est lui qui a la main sur le truc.
Voilà.
Sauf que le problème en Formule 1, c'est que t'as 20 organisateurs et t'as un gestionnaire de la F1. C'est-à-dire que t'as le gestionnaire de la F1 qui s'occupe de son public et de ses intérêts, les sponsors, les VIP et compagnie, et t'as l'organisateur qui lui s'occupe de ses intérêts à lui, donc c'est de la billetterie et compagnie. Sauf que le problème, c'est que malheureusement, quand Bernie Ecclestone il arrive, il laisse pas faire tout ce que les organisateurs voudraient faire. Je pense que tu demandes à n'importe quel Grand Prix, les organisateurs adoreraient ouvrir le paddock, l'époque, donner accès, etc. Mais en fait, bah, voilà, parce qu'il y a l'organisateur derrière, il y a les équipes qui font blocage, c'est-à-dire qu'on peut taper sur Bernie, mais on peut aussi taper sur les équipes, qui sont finalement bien contentes qu'on vienne pas les faire chier avec les fans et compagnie.
Ouais.
Voilà, même les pilotes sont bien contents que finalement qu'on vienne pas les faire chier. Ils sont dans leur petite bulle, quoi, c'est,
Non, c'est vraiment atroce que quand tu suis les championnats américains, tu te rends compte que même c'est le vendredi où le paddock est ouvert au public. N'importe qui vient, il paye simplement 10 dollars. Je crois que c'était une sur certaines épreuves. Tu payes simplement 10 dollars le vendredi et tu vas à la rencontre des pilotes et des teams. C'est une chose, ouais, j'arrive pas à comprendre qu'en F1, on se coupe du monde et après, on va s'étonner.
Ah si, non, ils font des forums FOTA quand même régulièrement, tu rigoles. Toi.
Ouais, ouais. New York.
Ouais, non, mais c'est vrai. Enfin, j'ai pas l'impression qu'il y a quoi que ce soit qu'on soit vraiment ressorti moi jusqu'à présent et
Mais déjà de toute façon que voilà c'est que les forums FOTA sont organisés par les équipes pour ensuite essayer de se mettre d'accord pour relayer les trucs. Mais déjà les équipes elles arrivent pas à s'entendre entre elles. Et en plus, même quand elles s'entendent entre elles, faut qu'elles négocient avec un certain Bernie Ecclestone qui a pas forcément envie de leur faire plaisir. Donc voilà, enfin c'est.
Ouais, mais c'est comme les organisateurs de Grand Prix qui se sont organisés aussi qu'on fait leur espèce de FOTA à eux, je sais plus quel nom ça porte. Mais au lieu d'avoir un organisateur à la fois envoyé chier, Bernie va pouvoir les envoyer chier tous en même temps. Parce que le problème, à ce niveau-là, c'est Bernie.
Mais bah, déjà, quand à peine t'as l'épreuve qui commence, t'as Bernie qui t'arrive, qui fait « Bonjour messieurs, je vous veux 20 millions ». Déjà, tu sais que ça va cloisonner pour le public à faire des places hyper chères, qui va vraiment segmenter ton marché. Et après, derrière, t'as toutes les règles qui vont tomber sur l'accès du public, les rencontres pilotes, machin. Donc voilà.
Et c'est là aussi la différence avec Le Mans. Enfin, Le Mans, t'as la CO. Tu prends la NASCAR, par exemple, la NASCAR, les organisateurs de Grand Prix de course, bah c'est des groupes. Enfin, t'as deux, trois mecs. Enfin, je crois que ce week-end là, c'était un mec à un seul circuit. Mais sinon, les autres, c'est la famille France et je sais plus quelle famille qui ont 15 circuits chacun. Voilà. Bah, voilà. Donc, t'as des mecs qui sont quand même puissants en face pour répondre. Là, c'est Bernie. Voilà, il a 20 interlocuteurs. Tu pourras même en mettre un en face d'ici à ce que les 20 s'entendent pour avoir une position commune tous ensemble pour aller voir Bernie, c'est juste pas possible.
Messieurs, quatrième actu, on va parler de droits audiovisuels puisque c'est Sky qui, après avoir récupéré les droits de diffusion au Royaume-Uni, enfin, les droits de diffusion de l'intégralité de la saison, eh bien, on a appris que c'était en Italie où, en fait, on avait un contrat similaire, c'est-à-dire une intégralité en direct pour Sky Italia et la RAI garderait une dizaine de grands prix en direct.
Bah ça va finir pareil en France avec Bein Sport. Hein.
C'est le grand risque.
Ça va finir exactement pareil. Hein.
C'est la grande question. Est-ce que ça va être Bein Sport ? Dino, tu l'avais fait remarquer d'ailleurs, dans les premières bandes-annonces qui ont été montrées sur Bein Sport, il y a des images de F1. Alors officiellement, ils n'ont pas les droits pour l'instant. Hein. C'est juste des images par-ci par-là. Mais on peut imaginer que c'est un objectif.
Ça laisse croire un peu aux gens.
Oui.
Enfin, en plus, au moment où Bein Sport, ils sont un petit peu au taquet parce que bon, ils ont les droits Ligue 1 et compagnie. Ils ont acquis là cette semaine, je crois hier
la
ou avant-hier, la Ligue 2 et le championnat la C1 de handball.
Voilà. Donc c'est vrai qu'il y a deux canaux. Moi, comme je le dis, hein, je le répète, bon, je pense que ça sera un objectif. Je pense que le seul frein qu'il peut y avoir à Bein Sport, enfin le fait qu'ils ne voudraient pas prendre de la F1, mais bon, c'est que il y a tellement de foot. Il y a peut-être pas de créneau pour mettre de la F1, mais bon.
Mais ils vont avoir ils vont avoir Bein Sport 2 aussi, hein. Donc ils vont avoir deux chaînes.
C'est pour ça. On peut aussi imaginer, pourquoi pas, que ça reste sur des chaînes gratuites, mais que ça soit sur plusieurs canaux. Regarde, on le voit avec l'Euro. Bon, ça serait plus étonnant sur un championnat parce que ça serait vraiment nouveau. C'est pas quelque chose qu'on connaît en France. Mais après tout, pourquoi pas?
Non, mais la grosse différence, c'est que je pense que autant l'Italie qu'à Ferrari ou en Angleterre qui ont leurs équipes, ils ont un public qui est prêt à payer en pay-per-view. Si en France ils font ça, je suis désolé, ça fait comme la boxe, ça sera une catastrophe. Ça finira comme la boxe où plus personne ne suit, parce que chaque fois que tu vas avoir accès ou autre, c'est du pay-per-view pour.
On avait vu en Angleterre en plus le bouquet satellitaire Sky, c'est beaucoup de monde. Il y a les Anglais. Sont beaucoup équipés en satellite. Je crois qu'il y a une dizaine de millions d'abonnés, donc dizaine de millions de foyers. Hein. Donc ça, en réalité, ça représente beaucoup plus de personnes, facilement 20 à 30 millions de personnes sur l'échelle du Royaume-Uni. L'Italie, là, pour être honnête, je pourrais pas vous répondre. Est-ce que les Italiens sont beaucoup sur le satellite ou pas ? Ça, je sais pas.
Je sais pas.
Mais au-delà de ça, ça va poser. Enfin, moi, pour avoir vu Légende de Sky Angleterre dans les paddocks, c'est une armée qui sont quoi. Donc si
Beansport,
d'autres chaînes débarquent. Enfin, j'imagine qu'en Italie, ils auront des moyens plus ou moins similaires, qui sont plus ou moins 80 Sky Angleterre. S'ils arrivent à 80 avec Sky Italia et que Beansport derrière en France acquiert les droits.
Ah, je pense
avec
que
le même
en
genre
la France,
de,
on aurait quand même moins que en Angleterre et en Italie, parce que c'est quand même
deux
marchés. C'est quand même deux marchés très spécifiques.
Et je dirais même, il y a aussi le risque en termes de couverture à voir. Par exemple, là, on voit que c'est quand même Sky en Angleterre et en Italie. Le risque de voir tout simplement un seul groupe de presse.
Oui.
Couvrir les grands prix,
ouais, aussi, ouais.
Ou en tout cas avoir une sorte de monopole ou de statut
bon,
privilégié
en France, ça
auprès
peut pas
des
arriver, hein, puisque Sky
non, mais en France,
voilà.
Non. En France, non, mais il peut très bien y avoir à un moment donné que les ordinateurs des courses, les écuries et tout ça se disent, après tout, notre interlocuteur privilégié, ça sera Sky. On va privilégier les déclarations, les interviews avec eux, et les autres derrière, ils auront plus que des miettes. TF1, ouais. Mais pourquoi pas les RTBF, la RTL, je crois que c'est la Sexta ou la Cinque.
C'est la Sexta en Espagne. Ouais.
Non, c'est un gros risque pour la F1. Ça, c'est moi, sérieux, ça m'effraie, quoi, parce que et même pour tous les sports, quand je vois que t'as qu'un seul groupe qui va pouvoir acquérir les droits d'énormément de sports, comme tu disais, on va avoir une rédaction pour chaque sport. Même après, la représentation, ça va être quoi? Ça va être juste de récupérer deux commentateurs, un duo de commentateurs pour de chaque pays, et après t'auras une rédaction qui sera centralisée sur laquelle tu devras suivre les ordres.
Mais en même temps, sincèrement, est-ce que vous seriez pas prêt, vous, à payer Beansport, c'est 11 € pour les deux chaînes, à payer 11 € par mois pour voir la F1, si d'ailleurs il y a la garantie que c'est une couverture intégrale avec des vraies émissions, des vrais reportages documentaires avec des vraies équipes sur place qui font le boulot que font pas TF1 aujourd'hui.
Personnellement, oui.
Faut voir la qualité, c'est ça le truc, faut voir la qualité.
Voilà.
Quand tu vois les premiers échos sur Beansport, ça a pas non plus l'air d'être la révolution par rapport à Canal, par rapport à TF1.
Mmh. Non, enfin, faut peut-être aussi leur. Enfin, moi, j'ai pas vu, j'ai pas d'écho et je suis pas concerné a priori. Mais c'est ça, quoi. Ils débutent, donc faut aussi leur laisser un peu de temps. Mais après, c'est clair que si la F1 passe sur une chaîne payante, t'auras beaucoup plus d'attentes et t'auras plus envie d'en avoir pour ton argent que sur une chaîne comme TF1 que finalement tu as d'office ou chez nous sur la RTBF. Donc c'est vrai que si tu payes pour avoir quelque chose, t'as plus d'attentes derrière, quoi.
C'est vrai que c'est aussi le risque, c'est que en passant sur des bouquets payants comme ça, tu crées une sorte de nouvelle classe de spectateurs qui n'est plus seulement spectateur du Grand Prix, mais qui en devient consommateur.
Exactement. Mais t'imagines au dehors de ça, la frange ils vont se couper d'une frange qui va être énorme. Je sais pas.
Oui.
Qui dans sa famille n'a pas des gens qui regardent la F1, ça passe sur TF1, mais lorsqu'on va leur proposer de payer 5 ou 6 € pour regarder la F1, mais jamais ils débourseront.
Au niveau des audiences, ça sera un effondrement, ça. Y a pas de souci.
Oui.
C'est pas le foot, la F1. Faut être réaliste.
Voilà, quoi. Tu pourras plus en discuter avec tout le monde. Au boulot.
Non, puis ça
en même temps, sincèrement, moi j'ai envie de dire sincèrement, à la limite.
Ah non, pas moi. Ah moi ça me, moi c'est, j'aime bien.
T'as vraiment envie que la F1 devienne un sport de niche, parce que c'est ça, hein.
Mais par essence, ça l'est quand même la Formule 1, un sport de niche. Enfin, on va quand même pas faire croire aux gens que la Formule 1 c'est un sport qui est accessible par tout le monde. Bah oui, je suis désolé. Moi, si on peut me permettre de payer, alors c'est sûr, je pourrais pas en discuter avec d'autres. Mais en même temps, de toute façon, quoi qu'il arrive, ça passe sur une télé publique. J'ai été obligé avec mon petit Fiji de créer un podcast pour pouvoir en parler avec des gens. Donc voilà, je pense que fondamentalement, la Formule 1 reste un sport de niche qu'on essaye de faire croire aux gens que ça peut devenir un sport populaire. Sauf que c'est pas nécessairement le fait que ce soit sur une chaîne gratuite ou une chaîne payante qui fera que c'est populaire. C'est par les icônes, par le fait qu'il y ait un constructeur français ou des champions français. C'est ça qui fera populaire. Alors après, ça dépendra effectivement si les conditions, par exemple, imaginons Grosjean devient un prétendant au titre ou qu'il devient l'un des futurs champions de demain. C'est sûr que ce sera plus facile de rendre le sport populaire sur une chaîne gratuite que sur une chaîne payante. Mais moi, sincèrement, aujourd'hui, je me dis s'il y a la possibilité de faire un deal comme il y a en Grande-Bretagne avec une couverture à minima gratuite sur une chaîne française, pas forcément TF1, mais pourquoi pas M6, pourquoi pas NT1, qui paierait beaucoup moins cher, et derrière une vraie couverture pour les vrais amateurs et compagnie, vaut mieux faire ça plutôt finalement qu'aujourd'hui d'être dans un système qui, soit on va aller sur le payant, et dans ce cas-là, bah effectivement, on va se couper d'un grand public, soit de rester sur le public, mais on se coupe finalement peu à peu des vrais fans qui demandent plus que de simplement voir la course. Enfin, moi, c'est vrai que j'avoue, aujourd'hui, le niveau de diffusion de TF1, je suis extrêmement frustré par les courses parce que j'ai pas tout ce que je voudrais avoir, les trucs de la Gazette, le F1 à la une avant, enfin c'est totalement déprimant. Heureusement qu'on a Eurosport, enfin, sincèrement, moi j'ai Eurosport depuis quelques années donc ça va, il y a Eurosport Player et compagnie, mais imaginons la vie des vrais fans de Formule 1 qui n'ont pas Eurosport avec ce que fait TF1, mais enfin je me demande comment ils peuvent être vraiment fans de Formule 1, c'est pas possible. Ils vivent toute la F1 par défaut et ils vivent pas vraiment la F1 dans de bonnes conditions, donc à la limite s'il faut payer pour vivre la F1 dans de bonnes conditions, bah pourquoi pas quoi.
Ouais, mais ça va me manquer. Est-ce que vous avez pas eu des gens dans votre entourage que vous avez réussi à se faire s'intéresser à la F1? Moi, c'est ça que j'ai aimé, quoi, la possibilité de qu'il ait accès librement, à TF1, même si c'est pas des retransmissions top. Mais il y a des gens avec qui j'ai pu discuter au travail, qui s'intéressaient un petit peu au sport automobile. Tu l'intéresses à la F1, t'en discutes un petit peu avec lui. Il va s'y coller, il va le dimanche, il va regarder une course, deux courses, il va s'attacher. Et au moins il a le libre accès, il va pouvoir le faire et au moins tu dis quelque part voilà j'ai ouvert un petit peu une personne à ce sport, ben là tu pourras plus le faire, tu discuteras avec la personne et la personne dira ah, j'ai pas dépensé 6€ pour m'intéresser à un truc auquel il s'est jamais intéressé auparavant et peut-être que ça lui plaira et peut-être qu'il s'ouvrira. Et ça me fait mal de me dire que en fin de compte on va être confiné à un truc limite comme les supporters de foot où ça va de père en fils, bah tu seras supporter de F1 de père en fils. Quand je vois ce que ça donne en... Je suis désolé, mais pour... pas tous, mais quand je vois pour certains ce que ça donne en foot, j'ai pas envie que ça devienne comme cela en F1, quoi.
Ouais, j'ai pas l'impression que le fan de foot est isolé, moi. Enfin,
là, on est sur le débat de la F1, mais si on regarde le débat général, aujourd'hui, on va de plus en plus vers une offre sportive qui sera une offre payante.
Regardez
le football, quoi. TF1, chaîne historique du football, n'a plus de football. À part quelques matchs... C'est même pas tous les matchs de l'équipe de France, puisque M6 en a une partie. Donc c'est, voilà, aujourd'hui, TF1, ils ont plus de sport. À part la Formule 1. Alors c'est peut-être le seul espoir qu'on peut avoir, nous, en tant que fans de Formule 1. C'est qu'aujourd'hui, c'est tout ce qui leur reste. Donc pourquoi pas. TF1, c'est plus du sport. France 2, c'est du sport, mais c'est le sport populaire. Donc la Formule 1, j'y vois pas sa place. M6, ils sont...
Ouais, puis il y a une question de prix aussi pour France 2.
Oui.
Ils veulent pas mettre,
oui,
voilà, pas mettre le prix, voilà. Non plus.
Ouais, mais tu vois,
pour TF1, ce qu'il y a de bien aussi, entre guillemets, pour eux, c'est d'avoir trois pilotes français, dont un, Grosjean, qui quand même performe,
pas mal. Mais en même temps, ça veut dire que lorsqu'il y aura l'appel d'offres, s'il n'y avait pas de pilotes français, TF1 pourrait dire, on propose un peu moins parce qu'il n'y a pas de pilotes français. Là, ça va être dur de proposer moins. Ça va être...
Oui, mais l'investissement sera peut-être plus rentable avec trois pilotes français, puisque les audiences seront supérieures. Donc,
ça, je sais pas. Sont bonnes cette année.
Ouais, elles sont pas mauvaises, mais non, mais ça m'effraie vraiment parce qu'on a vu le cas avec d'autres sports, comme le rugby, tu vois, il y a eu un gros effort médiatique qui a été fait. Canal Plus a acheté les droits. Résultat, tu vois plus de rugby. Et tu vois, il a pas eu l'essor. Et même au sein de la fédération ou dans les clubs, certaines voix commencent à se lever et à se dire, le fait, c'était très bien, on a eu des rentrées d'argent de Canal Plus qui a acheté les droits, donc voilà.
Donc après, voilà, c'est la F1, moi, c'est vrai que je comprends ton point de vue, Steve Core, sur le fait que on pourra plus partager. Mais moi, personnellement, peut-être que toi, ton expérience, c'est ça. Mais moi, personnellement, mon expérience, la F1, je ne la partage pas.
C'est vrai que de toute façon, en soirée entre amis, tu parles beaucoup plus facilement de foot.
Ah bah oui.
Que de Formule 1.
La Formule 1, c'est quand même très élitiste quand on parle. Enfin, la Formule 1 et les sports mécaniques, c'est quand même très élitiste.
Oui, puis il y a les gens qui regardent sans regarder, enfin, qui analysent des résultats sans dire, sans prendre en compte la voiture du pilote ou quoi que ce soit. Moi, j'ai plein de gens l'année passée qui ont dit, c'est bien, on a un Belge en Formule 1, mais enfin, pour faire ce qu'il fait, ça sert à rien. Bah oui, mais il faut voir aussi que derrière, il a pas une bonne voiture. Non, mais c'est pas pour prendre forcément sa défense, mais il faut aussi se dire qu'il avait pas de McLaren et loin de là, donc il faut aussi prendre ça en compte, quoi. Pas dire bêtement, ah ouais, il finit avant dernier, bah oui, mais il faut savoir pourquoi. Donc tu peux pas discuter à partir de là.
Rassure-nous, ah oui, Ben, en Belgique, c'est toujours la RTBF qui va continuer ou il y a le même problème?
Non, ce sera toujours la RTB.
Ça toujours?
Ouais. Mais de toute façon, on n'a pas vraiment de chaîne. Enfin, si, on a BTV qui était anciennement Canal Plus Belgique.
Oui.
Mais eux, ils récupèrent les matchs sportifs de Canal, en fait.
Mais je suis pas nécessairement inquiet pour, entre guillemets, désolé pour le dernier, mais pour les petits pays. Je pense que si vraiment doit y avoir un système de payant, on le voit. Quels sont les premiers pays touchés? La Grande-Bretagne, l'Italie.
Bah oui.
Je pense
l'Allemagne,
que c'est vraiment pour les gros pays.
Ouais.
L'Allemagne peut-être, la France peut-être. C'est vraiment les gros pays qui vont d'abord être touchés. Je pense qu'après, effectivement, Bernie Ecclestone, c'est pas franchement à la Belgique qui va demander les droits de diffusion peut-être les plus chers, quoi.
Oui, et puis de toute façon, enfin, c'est comme on faisait la réflexion. Les Anglais, ça va être Sky. Les Italiens, c'est Sky. Donc c'est des groupes. Donc ils ont pas forcément non plus intérêt à s'implanter dans des petits pays qui sont des marchés forcément moins importants et moins rentables au final.
Oui.
Donc c'est aussi dans ce sens-là que...
C'est vrai que du coup aussi, il y a cet aspect-là de la question qui est l'existence de grands groupes dans les pays. Alors, on parle de l'Angleterre, on parle de Sky, c'est vraiment un grand groupe qui est bien installé, qui est là depuis plusieurs années. Nous en France, il y aurait Canal+, mais je sais pas si Canal+, est véritablement intéressé par la F1. Bein Sport, c'est encore un peu jeune et un peu frais, donc faut voir. Donc c'est peut-être si on doit donner une lueur d'espoir, c'est qu'aujourd'hui, en France, il n'y a pas vraiment non plus de réelle menace, puisqu'il n'y a pas encore vraiment de gros groupes.
Des groupes audiovisuels.
Comme
des,
tu disais tout à l'heure aussi, avec une audience
en,
et compagnie.
Les groupes audiovisuels en France, il n'y en a pas 40 000. Il y a TF1, M6, France Télévisions, Canal+, et Bein Sport.
Mais de payants.
Pour les payants, oui, c'est Canal et Bein Sport. Hein.
Donc c'est pour ça que je pense aussi que Bernie Ecclestone, peut-être pour la France, va attendre, parce que, comme tu l'as dit, voilà, on n'est pas non plus un marché, on n'est pas un pays de tradition où on paye pour la télévision. Et je pense que du coup, Bernie va peut-être plutôt essayer de chercher une chaîne privée qu'une chaîne...
Une chaîne payante.
Enfin, une chaîne gratuite plutôt qu'une chaîne payante.
Mais on peut s'inquiéter quand même pour les petits pays, parce que je vais parler d'un sujet qui... Dino, bouge-toi les oreilles, mais si on a la F1 qui va faire son introduction en bourse, forcément, chaque année, il va falloir qu'il y ait comme une augmentation de la rentabilité de la F1 qui soit là. Et donc, ça va être de façon exponentielle où les droits télé vont augmenter, et même les petits pays vont être impactés. Ils vont être impactés sur une forte augmentation. Parce que Bernie va pas pouvoir demander de plus en plus d'argent, au circuit. Donc, il va se retourner vers qui, justement? Il y aura les télé payantes qui vont payer, faire payer.
C'est tout ce qui l'arrange.
C'est tout ce qui l'arrange.
Aujourd'hui, c'est tout ce qui l'arrange.
Et cette entrée qu'on dit en bourse en fin d'année ou autre va faire que dans quelques années, la Belgique ou autre, il va aller voir la RTBF et au lieu de lui demander, je sais pas,
le
je sais pas quel
même,
sont leurs
détails. C'est carrément qu'il n'y ait plus de F1 dans certains pays.
Mmh. Mais du coup, ça expose aussi au risque, c'est là où je nuance un petit peu, c'est que ça expose aussi au risque de se fermer un marché de spectateurs.
Exactement.
En sachant que derrière, il n'y a pas justement de groupe qui peut assumer. C'est-à-dire que, pour pouvoir jouer sur le marché, il faut qu'il y ait une concurrence. Sauf que, il y a certains pays où il n'y en a pas de concurrence. Enfin.
Non, mais tu vois, comment dire, t'as l'installation des box partout et elle est de plus en plus importante. D'avoir un canal sur chaque box dans chaque pays où t'as juste à payer 5€ pour avoir un accès à ton grand prix ou aussi, comment dire, tu vas payer 5€ et tu auras à droit à 2-3 canaux sur ta box qui va te permettre de suivre beaucoup plus agréablement la F1. C'est une chose qui va se développer. Donc, au lieu d'avoir une couverture satellitaire, simplement la F1, si elle s'organise correctement, ou même Bing TV ou autre, va simplement chercher à avoir des canaux sur ses box. Et on voit le développement, de la DSL et de cette installation. Et à mon avis, ils vont viser ce marché-là. Au-delà de, des grands groupes tels Canal+ ou autre, ils iront voir SFR, Orange, Free en France, et leur diront, on vous achète 4 canaux et on fait payer 5 euros.
La F1 sur Orange Sport.
Pourquoi pas carrément imaginer aussi...
Ça va être
diffusion
ça,
de la F1 sur le site officiel.
Bah oui, pourquoi pas. Oui.
Moi, je vois bien le MotoGP. C'est payant, évidemment. Hein.
Bien
mais
sûr.
Tu peux avoir... T'as pas de commentaires, je crois, par contre. Hein. Mm. Mais à la limite, pourquoi ne pas imaginer des players avec, pour les gens qui parlent anglais, une version en anglais,
ouais,
avec des
exactement.
Commentaires en anglais. Mm. Pareil pour les Français, pour les Espagnols.
Mais c'est ça qui est terrible. C'est que quand tu regardes la Formule 1, c'est quand même le sport... mécanique de renommée mondiale qui le sert moins bien les fans sur son site. Enfin, quand on va
sur le qui sert le moins bien les fans, c'est court.
Il y a que le live timing, puis encore le live timing est c'est le plus intéressant, c'est l'appli qui est payante. T'as pas grand chose. Alors que quand tu vois la NASCAR ou même tu dis le MotoGP, effectivement, même si c'est payant, derrière t'en as quand même pour ton argent, quoi. Tu peux regarder les caméras. Je crois que c'est Clément de la rédaction de Fan F1 qui nous disait que justement ce week-end sur le site des 24 heures du Mans, on pouvait accéder à des chaînes par voiture pour les caméras embarquées.
T'avais 11 canaux et t'avais accès, je crois, à une dizaine de voitures en vue intérieure. C'est ça le futur, c'est ça le.
Et même là, la F1 ne le fait pas.
Mais même au niveau des caméras embarquées en Formule 1, j'ai fait la réflexion, j'ai vu il y a quelques semaines. La course d'IndyCar au Brésil. Leur caméra embarquée, c'est des caméras qui tournent sur 360 degrés. C'est génial, oui. Ça. Quand tu vois, non mais quand tu veux voir un dépassement, tu peux le voir sous tous les angles possibles et imaginables. En F1, ils pourraient au moins penser à mettre ça sur les voitures, quoi. Ici, tu vois juste devant. Bah ouais, c'est cool, mais
Messieurs, une dernière actu, ou plutôt une thématique. Aujourd'hui et demain, la chasse à la réduction des coûts, puisque ça regroupe plusieurs actus qui regroupent justement cette question des coûts, puisqu'on a eu notamment des paroles de Luca Di Montezemolo, puis on a aussi beaucoup parlé de 2014 et des moteurs et de leurs coûts, messieurs.
Mais déjà, ce qui est bien, c'est que des grosses équipes, même comme Ferrari, commencent à monter au créneau sur le sujet. Avant, on avait un peu l'impression que c'était surtout les petites équipes
C'est pas eux qui passent pour les mauvais garçons en ce moment.
Ah non, ouais, cette histoire. Parce que finalement, on apprend qu'il y a quand même 10 écuries qui sont assez d'accord sur le principe. Maintenant, au niveau du détail, il va sûrement falloir discuter pas mal. Les seuls qui ne sont pas d'accord, c'est Red Bull et Toro Rosso.
Ouais, Toro Rosso.
Ferrari est pour, mais c'est tout le symbole. C'est qu'aujourd'hui, Ferrari est pour. Pourquoi ? Parce qu'il y en a qui dépensent plus qu'eux. Ah. Voilà, ce que eux faisaient avant. Et ils réussissent grâce à ça. Donc aujourd'hui, naturellement, c'est le fond du problème, c'est que ça fait deux ans. C'est pas seulement aujourd'hui qu'ils en prennent conscience. Ça fait deux ans qu'ils en ont conscience. Sauf que pendant deux ans, ils pensaient qu'ils pouvaient réguler le problème tout seuls.
Eh non.
Sauf que là, ils se rendent compte. Parce que, ils se rendent compte que comme des cons, ça marche pas de se réguler tout seul, qu'il faut vraiment intervenir, il faut vraiment pousser la FIA à intervenir. C'est ça la nouveauté, c'est qu'aujourd'hui, ils demandent à la FIA, mais il y a deux ans, Ferrari, jamais ils auraient appelé la FIA à participer pour contrôler les coûts.
Voilà, non, mais c'est un signe aussi maintenant, voilà. Par contre, moi, là où je suis moins enthousiaste, c'est sur le fait que j'ai parfois un peu l'impression qu'on va chercher des économies par des bouts de chandelle, quoi. Ouais. Enfin, moi, je veux bien qu'on réduise le nombre de moteurs, hein, parce qu'avant, on avait quand même le moteur Calif qui était surpuissant, qui tenait pas plus de 5 tours, puis le moteur course. Mais arrivé en 2015 avec, je crois, 4 moteurs
c'est
pour 4, un Grand Prix,
ce qui est annoncé, ouais.
C'est pas de l'endurance, quoi. Ça doit rester de la Formule 1. Donc, je veux bien qu'on réduise les coûts, Mais au bout d'un moment, faut arrêter de déconner, quoi. Il faut attendre.
En même temps, je pense que aussi après l'intérêt, sur la question des moteurs, c'est ça qui est mal vendu, c'est qu'ils disent c'est pour réduire les coûts. Le véritable intérêt, c'est tout simplement de faire des moteurs qui soient plus endurants, ouais. Et qui consomment moins, qui tiennent plus. Donc c'est vraiment redonner un aspect technologique. Enfin, c'est ce qu'on disait avant. On avait la limite des moteurs. Tout le monde a dit mais c'est n'importe quoi de limiter à 8. Et finalement aujourd'hui, il y a quasiment aucune écurie. Je crois que c'est Williams l'an dernier qui a monté un 9e moteur. Mais depuis que ça a été instauré, quasiment toutes les équipes ont fini la saison avec leurs 8 moteurs parce qu'ils ont appris. Donc je pense que passer à 4 moteurs en 2015. Certes, ça va réduire les coûts, mais en même temps, ça a aussi l'effet de véritablement pousser les équipes à trouver des innovations, à trouver moyen d'améliorer, etc. Je pense que c'est là aussi, c'est vrai que sur le coup, c'est peut-être des économies de chandelle, mais en même temps, tu te dis, quand même, derrière, il y a non seulement une économie, mais il y a aussi le fait que c'est sur la durée, quoi. C'est pas juste, on coupe un petit bout de truc, c'est effectivement ce qu'on va gagner. On va le gagner définitivement. C'est-à-dire que définitivement, on aura montré qu'on peut faire une saison de Formule 1 avec 4 moteurs. On ne pourra plus jamais en faire avec 5 moteurs.
Oui, mais t'as l'impression qu'actuellement, c'est leur mesure phare. C'est la réduction du nombre de moteurs par saison. Alors qu'il y a plein d'autres choses.
Il n'y a rien d'autre sur lequel ils s'entendent.
Et surtout que moi, il y a deux points sur lesquels, les 4 moteurs, je trouve ça ridicule. C'est d'un, tu penses que les fournisseurs, ceux qui fournissent les moteurs, ils vont avoir des charges de développement. Les moteurs vont simplement coûter plus cher. Faut pas rêver, hein. Renault,
ils vont
Mercedes,
penser, hein. Ils vont coûter plus cher au début.
Et deuxièmement,
une fois qu'ils seront développés,
ils vont se prendre la maille comme c'était auparavant.
Sincèrement, je préfère largement que les écuries dépensent de l'argent pour essayer de rendre leur moteur plus durable et d'en faire cap, plutôt que nous balancer un nouveau moteur où les écuries dépensent un pognon fou. Je préfère largement qu'ils disent écoutez, on va dépenser de l'argent, on va demander aux écuries de développer. Le moteur, ils ont pas besoin de le redévelopper, ils ont juste besoin de le rendre plus endurant et de fixer l'objectif de ça, le moteur fera 4 courses. Là, le truc, c'est qu'on leur demande, on va non seulement leur demander de changer de moteur pour un nouveau moteur, ce qui effectivement fait des coûts de développement, mais en plus on va leur demander comme ça en plein milieu de votre moteur il doit faire que 4 courses. Ça va nous coûter encore plus cher.
Oui, ouais. Mais enfin, qu'on passe
et le deuxième point sur lequel je suis pas d'accord, c'est que, et je suis d'accord avec Ben sur le fait que on a un sport, c'est de la compétition, c'est pas de l'endurance. Moi, je vois pas le progrès technique qui va intéresser quelqu'un qui s'intéresse à un sport de vitesse à lui dire ce qui est intéressant en F1, c'est le moteur il va tenir 4 courses ou 5 courses. Hein, de quoi? Non, il faut qu'il soit le plus performant sur l'épreuve sur lesquelles il participe. Moi je trouve ça j'ai les 24 heures du Mans où je vois que les moteurs ils tiennent 24 heures, ben voilà, super génial, mais au final ce qu'on retient c'est la performance. Pour moi un moteur s'il se développe sur sa performance et pas sur son endurance, c'est pas des voitures de série.
Je suis pas contre dans l'absolu la limitation du nombre de moteurs par saison, mais ici on est à 8, je trouve que c'est pas mal. Maintenant plus on va descendre, arriver à 4, je suis d'accord que c'est plus entre guillemets plus
ça
vendeur.
Ça fait 1 pour 5, hein, c'est ouh.
Je suis d'accord qu'on limite, mais faut pas limiter trop non plus.
Technologiquement, je vois pas l'intérêt de
dire. S'il y a moyen de faire mieux.
Oui, mais au final, t'imagines.
Dans ce cas-là, on tire un moteur pour la saison.
Je veux bien qu'on parle performance, mais aujourd'hui, les moteurs de Formule 1 sont bloqués à 18 000 tours et ils seront bloqués à 13 ou 15 000, je crois, à partir de 2014. Donc, sincèrement, on peut parler de performance. Aujourd'hui, la performance, elle est pas au cœur des moteurs. Parce qu'aujourd'hui, les moteurs, on veut qu'ils se valent tous à peu près. Après, si on peut réussir à être tout aussi performant avec des moteurs qui vont durer plus longtemps, c'est du progrès. Après, la performance, tout le monde est face aux mêmes règles, c'est-à-dire un moteur qui doit durer tant de Grand Prix, donc tout le monde devra chercher la performance. Bah, je préfère qu'on fasse aujourd'hui des moteurs qui jouent sur la consommation, qui jouent sur l'endurance et compagnie, parce que la Formule 1, c'est aussi ça. Enfin, c'est pas seulement l'endurance et claquer des moteurs et compagnie. Si on peut faire moins cher, pourquoi on va se permettre de claquer du blé?
Non, mais il y a moyen de faire moins cher en faisant d'autres choses aussi.
Le truc, c'est que c'est pas sûr.
Le problème, c'est que c'est aussi ça. C'est
la pression. C'est pas sûr.
Non, mais c'est moins cher, Chili. Non, mais c'est moins cher en termes de développement. On est bien d'accord. Mais après, en termes de, c'est-à-dire que tout le monde dit, ah ouais, c'est cher en termes de développement. Mais faut penser à ce qu'il fait après. Je préfère aujourd'hui que les écuries développent pour n'avoir que 4 moteurs. Ce qui fait que, de toute façon, jusqu'à la fin de la Formule 1, il y aura les 4 moteurs. Et donc, on pourra plus dépenser plus. Plutôt que de voir des écuries dépenser pour un moteur V6 qui va changer dans 5 ou 6 ans. Parce qu'on va encore nous refaire un nouveau moteur, on va arriver au V4, ou on va retourner au V8, parce que de toute façon on avait déjà fait le V8, on va déjà y revenir. Pourquoi ne pas encourager les équipes à dépenser sur des postes qui vont entraîner des réductions à long terme, plutôt que faire des dépenses à court terme qui n'amènent strictement derrière aucune réduction. C'est-à-dire, sincèrement, le moteur V8, qu'est-ce qu'il réduit comme dépense? Il réduit le V6, le nouveau moteur V6, il ne réduit que dalle comme dépense.
Ah non, bah dans l'absolu non. Maintenant c'est évidemment à long terme, pour peu qu'on décide pas dans 5 ans de dire ah bah on va changer.
Bah oui.
Ce qui n'est pas impossible là, parce que ce serait pas la première fois, mais.
Et le savoir-faire que tu as dans la longévité du moteur. De quel Grand Prix, le savoir-faire, les méthodes, elles sont apprises. Si derrière faut que tu développes d'autres moteurs, tu les garderas quand même. Et de toute façon, quoi qu'il arrive, ce sera devenu une règle qui voudra.
Non, mais ils savent savoir faire un moteur qui tient longtemps. Ils savent tous le faire.
Mais justement, le défi, c'est de faire ça à un moteur qui tient tout en étant performant. C'est là où je suis pas d'accord, c'est que la durabilité et la performance ne sont pas nécessairement liés. Ils sont liés parce qu'aujourd'hui, on se dit que un moteur doit être performant. Mais si on arrive à faire des moteurs performants et qui arrivent à tenir 5 Grands Prix. Moi, je me dis, banco, quoi, allons-y, je préfère qu'ils fassent des économies sur ça.
Mais tu crois qu'il va y avoir vraiment des économies? Les plus gros motoristes vont dépenser une fortune pour trouver des nouveaux alliages, pour rendre le moteur un petit peu plus léger que la concurrence, pour pouvoir avoir une disposition des frottements un peu plus faibles, donc réduire la consommation.
Il y aura au final, ils compenseront, il y aura moins de moteurs, mais ils compenseront sur le prix de vente auprès des autres.
Voilà. Il y aura toujours un qui mettra plus d'argent.
Non, mais ils le font déjà. Je suis bien d'accord sur le fond, je suis d'accord. Le problème, c'est qu'on raisonne dans le fait qu'il y a déjà un moteur qui est en route et que, derrière, ça va rajouter des coûts. Mais si la F1 avait dès le départ fixé comme règle, ce que fait la CEO, de dire, vous êtes libre dans le développement, votre objectif. Alors, la CEO, ils ont décidé de dire, faut que ça consomme tant de carburant. Mais par exemple, la F1 pourrait dire, faut que votre moteur tienne 5 grands prix. Les écuries font les développements nécessaires avec une certaine liberté pour le truc. On retrouve non seulement la performance, parce que pour le coup, les écuries ayant un peu plus de liberté vont pouvoir aller chercher telle ou telle performance. Et derrière, ils gagnent en durabilité sur le moteur. Aujourd'hui, le truc, c'est que c'est tout le défaut de la FIA, en tout cas de la Formule 1, c'est qu'on définit exactement ce que les écuries doivent faire. On a décidé, faut faire un V6 parce que c'est la solution. Non, c'est pas la solution. Et le problème, c'est que on a décidé de leur faire ça, et derrière, on leur rajoute un autre poste de dépense qui est, va falloir que le moteur fasse 5 grands prix. D'ailleurs, si on leur demande et que les écuries sont d'accord, c'est que pour les écuries, c'est pas non plus ce qui coûte le plus cher. Mmh. Le problème de la F1, c'est qu'on gère le règlement par des solutions et non par des objectifs. Là où la CO, par exemple, a été très intelligente, c'est qu'ils ont dit, voilà, on vous fixe un objectif, après, à vous de trouver les solutions. En F1, on arrive déjà, parce que la FIA discute avec les équipes et que c'est les équipes qui contribuent à faire le règlement, elles arrivent, elles ont déjà leurs solutions.
Oui, mais même on reprend le cas du Mans, ils expliquaient les différences donc, entre les catégories, et de ce que j'ai compris, par exemple, pour les LMP2, c'est des équipes qui ont des budgets, entre guillemets, plafond. Donc, ils peuvent dépenser autant d'euros pour ce qui est moteur, autant d'euros pour ce qui est de la conception du châssis, X euros pour d'autres choses. Donc c'est bien la preuve qu'il y aurait moyen, même en Formule 1, de dire, bah voilà, pour ce qui est du développement aéro de votre voiture, vous avez un budget X, et pour le développement des moteurs, bah, les motoristes disposent d'une somme Y, en leur laissant une certaine, effectivement, une certaine liberté.
Mais c'est ça qui est, aujourd'hui, dans la réduction des coûts en Formule 1, on est en train de leur dire, alors bon, d'accord, on va regarder où on peut réduire les coûts. Alors que sincèrement, il suffira juste de regarder les équipes et leur dire, vous voulez réduire les coûts? Très bien. À partir de 2013, vous nous faites une voiture maximum 150 millions d'euros par an de budget.
Et t'as l'impression qu'en Formule 1, quand on leur parle d'un budget plafond, pour, pareil, pour toutes les équipes, ils te sortent l'argument de, ouais, comment on va contrôler? Bah, il y a quand même bien moyen de le faire. La preuve, les gens de la CO, pour le Mans, en LMP2 le font. Donc, c'est la preuve qu'il y a moyen de foutre un budget plafond pour différentes parties de la conception de la voiture
et de contrôler
tout ça de manière satisfaisante, quoi.
Et puis, répondre comme ça, c'est dire qu'ils sont pas capables de même se contrôler.
Bah, on a déjà vu ce que ça a donné avec le RRA, hein.
Voilà. Oh là là, mais comment on va contrôler? Bah, soyez responsables.
Oh, surtout que le moteur, c'est un faux problème. T'as toutes les écueils qui se plaignent, c'est sur les recherches aérodynamiques. C'est ce qui coûte le plus cher. Donc, quand j'ai lu cette mesure-là, quoi, j'ai souri, j'ai fait non, c'est abusé. Si tu coupes dans le budget aérodynamique, si tu centralises à la rigueur les... Moi, sincèrement, ce que je veux dire, c'est peut-être faire sauter les gens sur leur chaise, mais comment dire, ça serait de centraliser un ou deux centres de soufflerie et que les essais soient à tour de rôle sur des séquences. Tu viens faire des séquences sur soufflerie, mais tu n'as pas une soufflerie par écurie. Déjà, tu aurais une grosse réduction de coûts parce que tu vois
les souffleries, elles les ont déjà les équipes majoritairement, oui. Et celles qui n'ont pas les louent à d'autres.
Ouais, mais chaque année,
budget soufflerie et aérodynamique pareil plus ou moins pour tout le monde. Bah
mais regarde, chaque année, t'as des dizaines de millions d'euros qui sont dépensés pour améliorer ces souffleries. C'est des sommes colossales qui sont dépensées chaque année pour les améliorer. Tu standardises le format, pour les écuries, ça serait vraiment une grosse réduction radicale, et chaque année, je te jure que t'aurais les grosses équipes font déjà des réductions énormes.
Mais si tu plafonnes le budget aéro, ils auront peut-être moins d'argent à dépenser dans l'amélioration de ces outils-là, et finalement, ils auront tous plus ou moins les mêmes, et ça évoluera peut-être moins vite, mais tout le monde sera de toute façon sur le même pied.
Non, mais tu auras toujours de la CFD, ou tu auras toujours l'ingénieur qui va trouver le petit truc magique.
Oui, bah voilà, oui, évidemment. Mais
on a limité les essais parce que ça coûtait trop cher, et derrière ça a augmenté les prix. Enfin, ça a augmenté les budgets des équipes parce que ils se sont tous mis dans la simulation, dans la CFD. Voilà. À telle point qu'à un moment donné, ils se sont dit, il y a peut-être trop de simulation, on peut peut-être revenir un petit peu à faire des essais pendant la saison parce que finalement ça coûtait moins cher.
Ça coûte moins cher, et en même temps il y a moins d'heures, ils ont des fermes de serveurs énormes qui consomment des gigawatts par jour.
Quelque chose qui coûtera de moins en moins cher.
Oui,
sur le long terme.
Sur le long terme. Mais pour le moment, c'est des fermes de serveurs qui sont utilisées. Et donc, ça leur coûte une fortune. Même ça, on peut limiter.
Mais encore une fois, c'est pareil. C'est ce que je disais tout à l'heure, Steph Core. C'est que là, on raisonne par solution. Quelle solution on apporte? Alors que finalement, le concept, il est simple. C'est juste, on définit un cadre d'action aux équipes. Et basta. C'est-à-dire que aujourd'hui, c'est le truc des équipes, quoi. C'est on va essayer de limiter ça, on va essayer de trouver un nouvel équilibre entre eux. Non, c'est
et
tout.
Et puis de toute façon, aujourd'hui,
à combien vous estimez qu'on peut faire une équipe de Formule 1? 150 millions. Vous avez 150 millions, vous démerdez avec, et tout le monde sera clair dès le départ. Après, chacun a ses libertés. Enfin voilà, si Ferrari, ça leur convient mieux de faire des essais en piste, ils feront des essais en piste. Ça leur coûtera ce que ça leur coûtera. Après, si McLaren, ils préfèrent faire parce qu'ils ont investi dans le CFD et la soufflerie, ils feront du CFD et de la soufflerie parce que peut-être qui leur coûte moins cher. Et après, chacun trouvera, si tu leur fixes un budget, chacun va essayer de rationaliser tout ce qui est possible pour aller vers la meilleure solution, qui soit la moins coûteuse, mais en même temps qui soit le meilleur compromis possible.
Parce que de toute façon, aujourd'hui, tu réduis le budget du côté des moteurs. Des équipes comme McLaren, elles font des économies là, l'argent qu'elles économisent, elles le mettent ailleurs.
Elles dépensent ailleurs.
Voilà. Donc ça change strictement rien au niveau de leur budget. C'est juste qu'elles font des économies quelque part et qu'elles avancent plus vite dans un autre côté parce qu'elles ont plus d'argent à investir dedans.
Après, pour conclure.
Ouais, je disais qu'on dirait le seul souci qu'un type de mesure sur les budgets KPE peut entraîner, c'est que on va partir aussi sur une base d'équipement qu'ont déjà les équipes. Une nouvelle équipe qui va vouloir arriver aura un budget KPE de 150 millions, donc elle pourra pas faire les mêmes investissements qui ont déjà été faits en l'occurrence par le passé par les anciennes équipes.
Et oui, mais elles peuvent déjà, enfin, si tu regardes les équipes qui sont arrivées, elles peuvent déjà pas le faire. Parce que,
voilà. Mais ça sera encore plus difficile pour elles de réussir à se mettre à niveau par rapport aux autres. C'est le seul souci que me porte un peu le.
Après, c'est un investissement, hein. Si une équipe veut réussir, elle prendra conscience qu'il y a certes un budget, et derrière, elle évaluera son dossier, peut-être qu'elle rachètera une écurie, peut-être que, voilà. Aujourd'hui, on est arrivé un peu dans une dérive où, c'est pas grave, on peut monter son équipe soi-même. Derrière, effectivement, les mecs sauront qu'ils s'engagent sur un plan de 5 ans. Mais ils le sauront dès le départ. Donc, s'ils viennent et qu'ils s'intègrent, c'est qu'ils auront assumé le fait qu'il y a une démarche de développement, d'acquisition de matériel et compagnie qui est nécessaire.
Messieurs, on va passer aux actus dont tout le monde se fout. Et il y en a, il y en a un nombre moyen cette semaine. Il y en a combien ? Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Il y en a 10. Alors, il y a d'abord une qu'on a.
Pour faire un sondage là-dessus.
Attends, on va voir. En premier.
Il y en a 10, je dis, c'est la 10.
En premier, moi j'avais mis de même que Fab, les circuits s'unissent pour peser politiquement, hein, puisqu'ils se sont réunis au sein de la FOPA. Allez-y, sortez les blagues.
Non, même pas.
Non, pas du tout. C'est...
Rien, FOPA, ça vous inspire pas, non, rien.
Vous avez pas envie.
Bon.
Faut pas faire chier Bernie, mais.
Alors, ils sont pas tous unis, en fait, ils sont 18 sur 20. modèle.
Il y a des circuits de Bernie Ecclestone dans l'eau, non ?
Non, c'est la Corée et la Chine qui sont pas dedans.
De toute façon, la Corée sera bientôt plus en Formule 1, donc on s'en fout. Mais j'ai vu que aujourd'hui Manicourt avait sorti un truc du même style, mais à eux tout seuls.
Oui, un GIP.
Ils se lisent avec
un GIP ou je sais pas quoi.
Pour
Sinon, et le GIP, il était, il y a Ricard aussi qui a fait son GIP. Hein.
Ouais. Pour Ricard, j'ai juste vu le titre en fait, j'ai pas approfondi le. Parce que je m'en fous.
Sinon, moi et Ben, on a cité vers une annulation des essais pour les jeunes pilotes. C'est vrai, c'est passé assez discrètement. Rien n'a été confirmé, hein, mais alors l'histoire, c'est que
personne veut y aller.
Grande couillonnade aussi au départ.
Ils se mettent d'accord pour aller soit à Silverstone, soit à Abu Dhabi. Sauf que Bernie, il a le contrôle sur le calendrier avant et après Silverstone, au cas où on ne sait jamais, il se passerait quelque chose. Donc, il a dit, il n'y aura pas d'essai à Silverstone. Donc,
parce que les équipes ont décidé de faire les essais sans lui demander leur avis, sans demander son avis. Je vais y arriver.
Et que les équipes ne veulent pas aller non plus à Abu Dhabi. Donc, part.
C'est une grande couillonnade, cette histoire, parce que, comme ils pourront pas faire leurs essais à Silverstone, beaucoup d'équipes ont dit, les essais jeunes pilotes, on les fera pas.
Oui.
Voilà. Donc, il y aurait les équipes qui n'iront pas à Silverstone, alors qu'elles avaient prévu ça au départ, ont dit qu'elles n'iraient pas non plus à Abu Dhabi. Moi, je trouve ça dommage pour les jeunes pilotes, déjà qu'ils n'ont pas beaucoup l'occasion de rouler.
Non, puis on y croit, en plus.
Oui, non, mais au-delà de ça. Et puis, moi, ce qui m'amusait aussi dans les essais de Silverstone, c'est que, oui, ils allaient mettre tous des jeunes pilotes dans la voiture parce qu'ils sont obligés, mais ils allaient surtout en profiter pour faire quoi? Du développement. Des essais pendant saison déguisés, quoi. Et c'est exactement ce qui a poussé certains patrons d'équipe à se dire, si on a le choix entre les deux, on va aller à Silverstone, on n'est pas cons.
C'est ce que disait Boullier, hein. Exactement. Il disait, dans l'intérêt des jeunes pilotes, nous on veut aller à Abu Dhabi, mais les autres, si les autres vont à Silverstone, on ira à Silverstone, parce que c'est là qu'on pourra avoir des nouveautés.
C'est ce qu'il dit, en tant que patron d'équipe, je réfléchis 2 minutes et Silverstone, c'est en plein milieu dans la saison, c'est bien ça, je vais faire des essais. Je vais seulement plus au-delà du fait de tester un jeune pilote, je vais surtout tester des nouveautés sur la voiture.
Ce qui me désole, c'est que tu vois que l'annulation, ça tourne quoi? Simplement sur le caprice de Bernie, quoi. On lui a pas demandé son avis. C'est vraiment pénible, quoi. Et c'est sérieux. C'est quand qu'on va le stopper? Parce que pour une fois, t'as quasiment toutes les équipes. Soit ils allaient peut-être détourner les essais pour faire des essais sur la voiture. Mais il y avait quand même des jeunes pilotes derrière, et simplement par un caprice de petit vieux, on se retrouve avec des pilotes
ça a pas non plus capoté que pour Bernie, hein. Il y a aussi des équipes dès le départ qui avaient dit qu'elles iraient pas à Silverstone. Je pense à Red Bull.
Et Toro Rosso, par exemple.
Ils avaient dit qu'ils iraient à Abu Dhabi. Et puis, de toute façon, il y en a plusieurs qui ont dit, de toute façon, Silverstone, il y a des risques de pluie, etc. Suffisamment intéressant d'y aller. À Abu Dhabi, au moins, on a la sécurité de pouvoir y aller.
Et si t'as la majorité qui...
Et à Abu Dhabi, ça reste dans la saison.
Mais si t'as la majorité des équipes qui dit on va à Silverstone, t'inquiète que, Red Bull aurait suivi, il serait allé à Silverstone. Voilà.
Non, mais... parce que la majorité des équipes avait déjà dit qu'elles iraient à Silverstone et Red Bull avait l'air de maintenir le cap sur Abu Dhabi.
Bah oui, jusqu'au jour où ça va tomber, et voilà, ils auraient changé leur fusil d'épaule. Mais moi, c'est l'attitude de Bernie que je trouve vraiment le. Ouais, c'est le plus pénible. On va pas reprocher aux équipes qui elles ont un réel intérêt de vouloir protéger leur intérêt et d'avoir un Bernie qui fait un caprice. Moi, je vais pas me tourner vers les équipes. Hein. Celui-là que je vois est le premier responsable, le premier idiot, c'est Bernie.
De toute façon, honnêtement, pour les jeunes pilotes, moi, c'est une des meilleures propositions qui avait été faite ces dernières années. Je pense que c'est l'an dernier ou en 2010, Jean Todt qui l'avait faite, de proposer au lieu de faire deux séances d'une heure et demie le vendredi, d'en faire trois d'une heure, dont une consacrée uniquement aux jeunes pilotes. Moi, je trouvais ça intelligent, parce que c'est vrai que les jeunes pilotes n'ont pas forcément beaucoup l'occasion de rouler en Formule 1. Certaines équipes leur donnent leur chance, notamment Force India, pour la principale.
Mais réinstaure le système qui valait il y a 5-6 ans, quoi, où les équipes qui étaient en deçà du top 5 pouvaient faire rouler deux voitures le vendredi matin, je crois, et où les équipes qui étaient dans le top 5 pouvaient n'en faire rouler qu'une. Donc forcément, voilà, si tu faisais rouler une deuxième voiture, à condition de mettre un jeune pilote, c'est comme ça que des Vettel, des Kubica ont fini par éclore.
Ensuite... Après, t'as toujours le risque de flinguer complètement quand on dit qu'un pilote va y aller trop fort et casse la voiture juste avant l'épreuve. T'as toujours ce risque-là, je pense qu'il y a certaines équipes qui doivent faire un petit peu
derrière. Le risque, il est pareil partout. Hein.
Oui, non, mais si tu le fais à Silverstone, tu sais que t'as le temps derrière, avant le prochain Grand Prix, d'avoir une voiture compétitive. Si t'as un jeune qui expose ta...
T'as pu faire une journée quand même.
Ouais, enfin, il y a quand même des pilotes chevronnés qui parfois foutent leur voiture dans le décor. Hein. Regarde Vettel en Turquie, il en passait. Voilà. Voilà, le risque zéro n'existe pas. Et, si, de toute façon, si tout le monde est obligé de mettre un jeune pilote dans la voiture, tout le monde est logé, entre guillemets, à la même enseigne.
Ensuite, on a eu, de la part de Steph et de Fab, un point circuit, hein, puisqu'on a eu plusieurs petites infos. Alors, il y a eu le Canada qui... Devrait ou qui a re-signé jusqu'en 2024 pour l'instant?
Devrait.
Devrait.
Pourrait.
Qui pourrait. New York qui fait sa promo avec Vettel.
Ouais.
Et.
I'm spreading. The news. I'm living.
Et la Thaïlande. Oui, la Thaïlande.
I want to be a part of it. New York, New York.
La Thaïlande donc qui veut.
Salut la Réunion.
Hein, qui voudrait elle aussi un Grand Prix. Alors apparemment un circuit urbain. Hein.
Ouais, moi j'ai vu l'info et je me suis dit, on a déjà parlé beaucoup de nouveaux circuits dans le dernier mag et je me suis dit, on va pas encore le faire. Surtout qu'en plus, la Thaïlande, très franchement, je m'en fous.
Bah, je t'avouerai que maintenant, t'en as 5 ou 6 qui apparaissent chaque année. Là, la Thaïlande, j'ai juste regardé le titre et j'ai fait non, un de plus. Voilà,
pour non, j'ai pas lu non plus, honnêtement.
J'ai pas lu non plus.
Je suis désolé
pour le rédacteur, mais...
Sinon, on a le moment Steph Core, le moment business... Le moment monnaie, le moment Wall Street.
C'est l'actuel à laquelle je pense, j'ai failli la mettre.
Ah bon? Waddle & Reed détient désormais 20,9% de la F1.
Et ben, de nouveau, je m'en tape.
J'ai failli la mettre.
Ouais, mais...
Ensuite, on a... Oui?
Non, je ne le ferai pas. Je boue, mais non, je ne le ferai pas.
Sinon, nous avons quelque chose dont tu as parlé, Dino. Hein. Tu voulais parler de la FIA et de la SCO qui dévoilaient le nouveau règlement pour l'endurance, mais tu en as parlé. Ensuite, nous avons Pirelli qui va proposer un nouveau pneu dur à Silverstone. Alors, qui va le proposer, mais qui veut pas le mettre... ils veulent pas le mettre pour pas fausser...
J'aime bien les mecs de Pirelli B. Ils vont demander aux équipes à Silverstone d'essayer un nouveau pneu.
Pour l'an prochain.
Alors disons, on le mettra pas.
Pas cette année.
Pourquoi tu leur fais essayer? Ils peuvent pas attendre la fin de saison.
Je vois pas l'intérêt non plus. Mais bon.
Surtout qu'ils ont une équipe d'essai. Enfin voilà, essaye-le toi. Tu proposes à Abu Dhabi en fin de saison. Puis après, basta.
Bah ouais, avec une voiture super récente en plus. Donc
voilà.
Ben, tu nous as proposé Force India doit progresser.
Ouais, parce que je me suis dit. Ouais, mais de toute façon, ça.
Alors, t'as renvoyé un deuxième mail pour mettre cette actu là.
Oui.
Ouais, en fait, j'ai viré Grosjean et j'ai mis celle-là. mais c'est parce que je me suis dit, Grosjean, on en a déjà parlé. J'ai voulu virer celui-là ou celle de Raikkonen. J'ai hésité entre les deux.
T'as eu des remords.
Non, mais je me suis dit, Grosjean, je le mets déjà à l'honneur dans ma chronique de la semaine, donc voilà. Non, mais Force India, je me suis fait la réflexion, et d'ailleurs, ce sera, puisqu'on n'en parlera pas dans le top de l'actu, ce sera ma citation, mais. Elle fait pas une mauvaise saison et paradoxalement, par rapport à Williams et Sauber qui eux font un très bon début de saison, ben on a l'impression qu'ils sont un peu en retrait. Donc c'était aussi une façon de pouvoir en parler Il les met à l'honneur.
Sinon, on a celle de Gus Gus. C'est un peu la. Cette semaine, c'est Gus Gus. Ah, elles sont pas non plus. C'est pas du Steph Core, non. Mais bon, c'est du Gus Gus cette semaine. Nous avons Button qui se défend d'être un pleurnichard.
Ah, j'adore cet article.
Qui a cartonné d'ailleurs dans les.
Ouais. Mais c'est le mot pleurnichard, voilà.
Ouais, bah c'est vendeur. Hein.
Gus Gus nous a aussi proposé Red Bull a aussi dû modifier son système de freinage. Mais ça, c'est parce qu'il l'a écrit. Il l'a dit.
Oui,
il fait son auto-promo.
Ouais, je l'ai fait une fois, moi, ça va. Et la semaine d'après, j'ai fait
Bah, d'habitude, c'est moi qui fais la promo de Ben, mais comme j'ai pas reçu le chèque cette semaine, là.
Ouais. Ah, t'as vu, je t'avais prévenu.
Hein. Ah, non, ouais, il m'a régulier. Hein.
Une petite.
Non,
dernière...
mais j'ai pas été content de tes interventions précédentes. Donc.
Une petite dernière de Gus Gus, le dossier Jacques Villeneuve, la compile de ses déclarations du week-end du Canada, et les menaces de mort qu'il a reçues. Et vous avez vu, il y a quand même un truc vachement plus important que ça, il s'est rasé.
Moi, j'ai pas vu du tout. Ouais.
Ah, pourtant, sur la photo, on le voit, il y a
mais l'article sur les menaces de mort,
c'est monsieur propre.
J'ai pas lu.
Mais ce qui est rigolo, c'est qu'il a déclaré avoir reçu des menaces de mort, et quelques jours avant, il donne une interview dans un journal canadien, où il dit, mais je mourrai en compétition.
Ah. Bien sûr.
Bah écoute, ça va peut-être venir plus vite.
Bah déjà, pour mourir en compétition, il faudrait qu'il en fasse.
C'est vrai.
Non, il fait la NASCAR sur le circuit GP.
Oui.
Donc en fait, c'est un abonné au circuit Gilles Villeneuve. Il y en a, ils prennent un abonnement pour faire du golf dans un endroit. Bah lui, il a un abonnement au circuit Gilles Villeneuve. Et toutes les courses qui s'y passent, il est fait. Sauf la F1.
Alors messieurs, pour cette semaine, vous voulez demander quoi aux auditeurs? L'actu la plus importante ou celle dont tout le monde se fout
En même temps, j'ai envie de dire, l'actu la plus importante, il y en a certaines dont on s'en fout, donc ça pourrait être intéressant.
D'accord. Donc on va vous proposer cette semaine...
Eh, ça n'engage que moi, je veux dire.
Non, mais...
Je suis plutôt pour, parce que je vois rien d'énormément choquant dans les...
Non, il y a rien de...
Hormis le type qui possède 21% de la Formule 1, rien de méchant.
T'imagines les sondages magnifiques. Quelle est l'actu qui vous fait le plus chier et tu mets que ça de Waddell et machin, là.
Donc cette semaine, on va vous demander quelle est pour vous l'actu principale de ce magazine. Donc on vous rappelle les 5 actus. Il y a Sky qui obtient également les droits télévisuels pour l'Italie. Aujourd'hui et demain, la chasse à la réduction des coûts. Les pilotes Lotus, Grosjean impressionne et Raikkonen n'inquiéterait pas le boulier. Rosberg et Mercedes jouent le titre. Et Valence qui peine à vendre ses billets. C'est cool, les tribunes vont être vides dimanche prochain. N'oubliez pas pour voter, c'est sur l'article consacré à cette émission du mag du 20 juin. Si vous êtes sur iTunes, donc n'oubliez pas de passer par le site fan-f1.com. Et peut-être même que vous avez déjà répondu puisque vous nous écoutez. Dino, c'est l'heure des citations.
Oui, tu veux que je commence?
Si tu veux.
C'est une citation de Bernie Ecclestone qui déclarait récemment « On veut juste une mise à niveau, on ne veut pas que ça ressemble à Abu Dhabi, mais on veut un coup de jeune. Si on construit ici des installations comme à Silverstone, ce serait bien. » C'est à propos du Grand Prix du Canada et des conditions pour qu'il y ait une prolongation de contrat, peut-être de 10 ans. Et ça cautionne ce que je dis depuis pas mal de temps, c'est que bah voilà, grâce à Silverstone qui a dépensé de l'argent, maintenant c'est le nouveau standard, c'est Silverstone.
C'est le standard.
Donc, les pays historiques vont devoir se... vont devoir se calquer sur Silverstone et aussi sur Spa qui ont consenti à se mettre au niveau.
Est-ce que ça veut dire que dans toutes les lignes droites des stands, il y aura des murets tellement hauts que les gens en tribune ne verront rien?
Voilà.
c'est le risque.
Mais cette année, ils vont changer la disposition, je crois. Hein. C'est-à-dire que les grosses équipes seront au milieu et les plus petites de chaque côté. Comme ça, celles qui sont au fond du stand de la pit lane, tout le monde s'en fout, donc personne ne verra.
Ce qui se fait normalement, c'est-à-dire que tu remarqueras que normalement dans la pit lane, les premiers box à l'entrée de la pit lane sont les box des écuries de pointe. Et après, plus tu vas au fond de la pit lane, plus c'est les petites équipes. Sauf que là, l'année dernière à Silverstone, allez savoir pourquoi, ils avaient décidé d'inverser l'ordre des
box. Ouais, bah ouais.
Et ça a été tout simplement la demande de Bernie Ecclestone, ça on le sait, hein, c'est Bernie qui a demandé à ce que les box de Ferrari McLaren soient mis au fond pour les VIP. Comme ça, ouais. Ça valorise les places des VIP.
Ouais. Mais d'ailleurs, sur certains circuits, les salles de presse ne donnent même plus sur les pit lanes. À Barcelone, c'est encore le cas, mais à Francorchamps, par exemple, que dalle. Tu peux avoir vu sous le paddock, mais bon, c'est pas très intéressant.
Surtout la salle de presse, ça sera à 2 km.
Mais c'est pareil, l'investissement à Silverstone, il est à peu près de combien? Parce que ça a l'air tout léger en temps de Bernie pour le Canada.
Mais c'est ça, donc c'est que ça a l'air
de façon,
léger, mais en fait, non, c'est pas léger, enfin, c'est des investissements énormes.
Ah oui, c'est ce que
il y a des, il y a de l'argent qatari à Silverstone aussi maintenant, non?
Ben voilà.
Parce que les fonds qatari ne louent pas le circuit pour plus de 100 ans, je sais pas. Il me semble.
Oui, il y a un contrat, ouais, pour
il y a un contrat dans ce genre.
Puis c'est des projets à long terme. Enfin, là, il y a le nouveau paddock club, enfin, les nouvelles tribunes, normalement, qui devraient arriver cette année ou l'année prochaine. Voilà, c'est des gros projets de plusieurs dizaines de millions d'euros. Voilà, enfin, c'est sincèrement plusieurs dizaines de millions d'euros. Il y a quelques années, c'était le coup d'un circuit neuf.
Ouais. Mais c'est vrai que quand tu revois les anciens stands, c'est vrai qu'il y avait besoin d'un bon coup de lifting. Maintenant, est-ce qu'il y avait besoin de faire un investissement à ce point-là? Surtout pour avoir une pit lane qui descend, on ne sait pas trop pourquoi, et qui remonte, on ne sait toujours pas trop pourquoi non plus.
Au Canada, c'est vrai que bon, les stands méritent peut-être d'être améliorés un peu.
Après, honnêtement,
voilà, maintenant, c'est pas non plus.
Quand tu vois même les abords du circuit du Mans et que tu vois les circuits de Formule 1 aujourd'hui, t'as l'impression que t'es dans un monde, il y a un monde d'écart, quoi. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir cette différence parce que c'est la Formule 1 de nouveau? Enfin, je suis pas sûr, quoi.
D'autres citations.
Mais c'est aussi le truc, c'est que si tu laissais un peu plus les VIP se balader dans le paddock, tu aurais pas besoin de leur faire une cage dorée au-dessus des stands.
Ah oui.
Voilà, au moins il y a pas besoin d'une cage dorée au-dessus des stands, les mecs ils peuvent aller dans le paddock comme ils veulent. Donc forcément les ils vont pas s'enfermer sous une tente, quoi.
D'autres citations ?
Moi j'avais une, mais ça revient à ce qu'on parlait sur la réduction des coûts, mais c'était les citations de Jean Todt qui disait « Selon moi, la F1 est trop chère. Si nous ne faisons rien, nous pourrions bientôt avoir moins de 12 équipes sur la grille de départ. » Et j'avoue que ouais, c'est une crainte perso que j'ai, parce que j'ai pas envie de revoir une grille de départ à 20 ou à 18 voitures. C'est quelque chose qui me fait du mal.
Mais non seulement la réduction des coûts pourrait assurer qu'il y ait 12 équipes, effectivement, et à mon avis, d'avoir 12 équipes qui sont d'un niveau quand même plus respectable que ce qu'on a aujourd'hui avec HRT et Marussia, ou même Caterham qui quand même rame pour passer le palier qui lui permettrait de jouer les points. Donc voilà, c'est vrai qu'avoir 12 équipes c'est bien, mais il faut que ce qui est intéressant, c'est d'avoir 12 équipes qui peuvent quand même performer un minimum, ce qui n'est quand même pas forcément vraiment le cas aujourd'hui.
Ouais, c'est vrai le cas. Ouais.
Donc ça aurait un effet doublement positif, à mon sens.
Alors moi j'avais une citation, alors c'est un truc qu'on a évoqué, c'était sur justement Button le pleurnichard. Hein. Ce n'est pas gémir, les gens disent il pleurniche toujours, mais ce n'est pas pleurnicher, il s'agit de développer la voiture durant la course, c'est ce que font les pilotes. Donc vous voyez, quand on vous dit, si on vous dit oui tu es un pleurnichard, je fais non, je ne pleurniche pas, je développe.
Je ne pleurniche pas, j'explique.
J'explique, je développe, je ne me plains pas.
Voilà. Non mais moi ce qui m'a amusé, j'ai voulu le mettre aussi, mais c'est comment on peut vite passer de héros à zéro finalement. C'est que
il y a
pas si longtemps on vantait les mérites de Button encore après sa victoire en Australie en disant ah ouais après 2009 on a dit il méritait pas son titre, alors que maintenant il prouve largement que si, et ici bah il a trois courses où il est effectivement pas là où il devrait être. Eh ben tout de suite, on a des critiques, on dit qu'il pleurniche parce que sa voiture ça va pas, il le dit. Donc voilà, de nouveau, c'est pour montrer que ben il suffit qu'il fasse une bonne course à Valence et on aura oublié qu'il pleurnichait soi-disant au Canada, quoi. De toute façon, on n'est jamais aussi bon que dans sa dernière course. Hein.
Oui.
C'est le résultat qui compte. Enfin, c'est la dernière course, le résultat de la dernière course qui compte.
Non, je trouve je trouve les critiques assez dures, quoi.
Mais il y a manifestement quelque chose qui va plus.
Ça oui.
Ouais,
ça,
c'est depuis qu'ils ont changé le nez, hein.
Depuis le Mugello, ouais. Effectivement. Il aurait peut-être dû aller aux essais, Button.
Oui.
Ouais. Mais pourtant, il avait clairement dit qu'il s'en foutait, je crois. Hein. Là où Hamilton avait,
oui, bah, voilà,
avait fait
voilà,
croire qu'il voulait y aller alors qu'il savait très bien que son équipe ne le laisserait pas faire. Lui, Button, il avait clairement dit qu'il ne voyait pas l'intérêt. Mais c'est vrai qu'il aurait peut-être dû.
Et sinon, Ben, tu avais une citation précise ou...
Moi, ma citation, c'était, je vais revenir un peu plus sur Force India, puisque c'est Vijay Mallya qui dit « Nous avons eu notre meilleur début de saison en termes de points marqués, mais les équipes autour de nous ont aussi réussi des performances exceptionnelles. » Et c'est vrai que finalement, ils ont 28 points, Force India, après 7 courses, ce qui est pas mal, si on prend par exemple la saison de l'année dernière. Mais ils ont pas de bol, ils font un bon début de saison. Le meilleur de leur histoire, mais en face, ils ont Williams qui réussit un coup extraordinaire à Barcelone. Ils ont Sauber qui a sorti une voiture qui lui permet d'avoir 2 podiums à son actif. Et du coup, on a l'impression qu'ils sont pas si bien que ça, alors que ils font pas du mauvais boulot. Et il faut pas non plus oublier que Force India est quand même souvent une équipe qui débute, on va dire pas moyennement, mais qui finit mieux la saison que ce qu'elle ne l'a commencé. Donc il faudrait pas s'étonner de la voir. Je trouverais ça sympa d'ailleurs.
Moment, alors.
Parce que c'est une équipe que je trouve assez sympathique de la voir sur le podium une fois d'ici la fin de la saison.
Après, et après je trouve qu'ils sont peut-être moins flamboyants que Sauber, mais tout aussi réguliers. contrairement à Williams qui est très flamboyant, mais dont la régularité pêche.
Et moi, je trouve que
alors que là, on sent que Force India ils sont régulièrement là, ils sont toujours dans les points et
moi, je trouve que Force India c'est vraiment le digne successeur de ce que pouvait être Jordan quand moi j'ai commencé à suivre la Formule 1.
Ouais. Ou Sauber il y a quelques années.
Ouais, ou même Sauber qui, on l'a déjà dit, est une équipe qui est une bonne équipe de milieu de tableau comme il en faut et qui voilà, ici il fait deux podiums sur la saison, ça lui est jamais arrivé. Il vise éventuellement, pourquoi pas, une victoire. Ça pourrait arriver. Après tout, cette année, rien n'est impossible. Mais on a aussi besoin d'équipes qui n'iront jamais forcément jouer le titre, mais qui sont des équipes solides pour des jeunes pilotes qui peuvent. Voilà, tu vas chez Sauber, t'as la garantie d'avoir une voiture qui te permettra de montrer des choses. Quoi.
Bah, si tu veux des belles histoires comme je sais pas le Grand Prix de Belgique 2009, il faut des équipes qui vont te surprendre. Bah oui. Donc il faut des équipes de milieu de peloton, des équipes de fond de peloton qui vont surprendre parce que tu les attends pas quoi.
Oui, bah oui, mais c'est ça. Voilà, c'est vrai que c'est ça qui fait les belles histoires. On se souviendra du Grand Prix de Malaisie 2012 pour la presque victoire et le premier podium de Perez, le meilleur résultat de Sauber, et puis voilà, oui, la pole de Fisichella.
Le Grand Prix de Winkelhock.
Ah, c'est pas.
Oui, c'est vrai.
Non mais sincèrement, l'heure de gloire de Winkelhock, le mec qui fait un Grand Prix.
Oui, ça me marquera peut-être moins quand même, mais.
Oui, mais c'est une belle histoire.
Et c'est vrai que ça, c'est des histoires, ouais, qui font aussi que la Formule 1 est intéressante, quoi, parce que il y a pas que les grosses équipes qui gagnent. Et qui peuvent faire des bons résultats, des coups d'éclat et voilà.
Et on a eu peur il y a quelques années, c'est vrai, sur Force India, quoi. On a cru justement qu'ils n'avaient pas monté à prendre et en fin de compte, ils ont une belle progression chaque année.
C'est vrai qu'après Spyker et Midland, t'avais de quoi t'inquiéter, quoi.
Ah oui. En plus des Indes.
Mais ils ont gagné le respect du paddock et des fans. Pour moi, je trouve que c'est
possible. Ouais, exactement.
Dino, on va passer au répondeur.
Oui, on va être rapide, Shinji. Hein. C'est pas qu'on n'a pas eu de questions. Mais c'est qu'on n'a pas eu beaucoup de réponses.
Le service après-vente de la F1 vous présente le répondeur du SAV. Vous avez une question ? Nous y répondons.
Alors, le répondeur, on a déjà reçu. On a reçu trois questions.
Hein. Ah.
Alors, il y en a une tout de suite, on va tout de suite dire à Daniel B. On a beaucoup aimé sa question, mais que malheureusement, on a tellement ri en lisant sa question qu'on en a oublié de faire la réponse. Donc, on cherchera une réponse pour le prochain mag, sans doute. On sera peut-être un peu plus motivé. Voilà. Donc, Daniel, si tu nous écoutes, là où tu es, on te salue. On va donc prendre la question de Adelin. On part ces derniers temps de Twitter avec la F1. On dit que les pilotes peuvent envoyer des messages de leur voiture. Là, je ne comprends pas. Ils n'ont pourtant pas de clavier pour taper des messages dans leur voiture. J'aimerais plus d'explications. Eh bien, Adelin, on va t'expliquer, c'est très simple. Parmi tous les boutons du volant d'un pilote, il y a un bouton Twitter. C'est un petit bouton bleu.
Avec un petit oiseau.
Et le pilote appuie dessus et après il fait du morse en fait, donc voilà, il appuie en morse en même temps qu'il conduit et ça fait le message sur Twitter et ça l'envoie en ligne. Voilà, je pense qu'on peut passer à la question suivante. Non, c'est un mythe. C'est-à-dire que voilà, c'est pas possible. Il y a eu des cas, on se rappelle, c'était en NASCAR.
C'est pas Brad Keselowski.
C'est Brad Keselowski qui a effectivement, il y a eu le Tweetgate, hein, vous savez, enfin. Pas celui que vous pensez, mais c'était avec un autre nom imprononçable, mais aux États-Unis. C'est pendant un drapeau rouge, il avait le téléphone dans sa combinaison parce qu'il a pris l'habitude, en cas d'accident, d'avoir un téléphone pour prévenir rapidement sa famille qu'il allait bien. Parce qu'une fois, il a eu un accident et il n'a pas pu joindre sa famille pendant plusieurs heures et ils étaient inquiets, donc il s'est dit, voilà, maintenant je pars tout le temps avec un téléphone. Mais il a pas tweeté en course, il a tweeté parce qu'il était sous drapeau rouge, il y a eu 2h30 de drapeau rouge, donc il s'est dit, voilà, je vais tweeter, il a pris des photos et compagnie. C'est pas possible de tweeter quand t'es pilote, enfin, voilà. Alors après, sur Twitter, il est pas impossible que vous voyez des pilotes tweeter pendant qu'ils sont en course, mais dans ce cas-là, c'est pas eux.
Oui, c'est pas eux. Par exemple, faut révéler un truc.
Nico Rosberg, c'est pas lui qui dit, ah, regardez les nouvelles promotions sur ma boutique.
Les gens ne sont pas forcément ceux qui prétendent être sur Twitter.
Voilà, ça peut être soit un ami, enfin un proche, voilà, ça peut être aussi le service com de l'écurie. On sait que par exemple, je crois que Ferrari a demandé à ses deux pilotes de se mettre sur Twitter, mais c'est les deux pilotes qui l'animent. Donc Alonso et Massa sont arrivés assez récemment sur Twitter.
Enfin, il y en a un qui l'anime plus que l'autre. Hein.
Oui, oui.
Mais globalement, honnêtement, les pilotes de Formule 1 sont pas très très actifs. Alonso pour le moment, mais ça lui passera peut-être. Ouais. Mais
Alonso, c'est peut-être le plus intéressant à lire. Il y a Weber qui est
Ouais, encore sympathique aussi, ouais. Mais
parce que lui, c'est vraiment sur sa vie périphérique. Ouais. Il y avait Barrichello qui était pas mal parce que
Barrichello, il était bien, ouais.
Mais Alonso, il en fait tellement que parfois tu te demandes si c'est vraiment lui qui poste tout, en fait. Mais je trouve que c'est, il en fait un peu tout, un peu
là,
tout.
Là, il vient d'en envoyer un où il est dans le train.
Bon, voilà, des détails à rajouter, messieurs?
Non.
Est-ce que vous pensez qu'il serait intéressant que les pilotes puissent tweeter pendant la course?
Je vois pas d'intérêt.
Je
suis premier. Genre, je vais changer les pneus.
T'imagines? Genre, attention! Je vais dépasser.
Bah, et ça peut être intéressant pour Massa Hamilton. J'arrive derrière toi, je te double. Je t'attaque à gauche, je t'attaque à droite. Tu
dois être trop vexé. Mais oui, ça pourrait être une idée à suggérer à Bernie avec pas tout. Non, mais c'est pas la pire qu'il a eu.
Qu'on reprenne un Grand Prix et que pendant le Grand Prix, on mette un petit panneau en bas avec des faux tweets. Massa qui envoie un tweet à Hamilton en disant attention, j'arrive à droite. Ah bah non, je suis à gauche.
Non, mais tu te rends compte que en plus, faut qu'il le fasse en morse, comme tu l'as dit, parce que tu peux pas leur mettre un smartphone dans la voiture parce qu'ils ont des gants, donc ils peuvent pas utiliser le clavier.
Tu vois ils ont un petit écran sur leur volant, ça s'afficherait là.
Mais ils ont des gants. Ça marche pas le tactile, c'est avec les gants.
Un peu d'innovation, quoi. Shinji, inventeur de Mythos sur M6, l'inventeur de l'année, c'est un mec qui a inventé un gant Bluetooth.
Oui. Non, mais le gant qui permet
c'est peut-être l'avenir est là.
Le gant qui permet d'écrire sur des écrans tactiles, il existe déjà.
On pourrait enfin avoir une reconnaissance vocale digne de ce nom. Il faut creuser.
Ouais, d'ailleurs, je le dis, le S-Voice, quand tu demandes quel est le meilleur site de F1 sur Internet, il sait pas répondre.
Alors ça, franchement, alors que la réponse est évidente.
F1.com, bien sûr.
Ouais, non, mais après, ça peut être dangereux, quoi. T'as Massa qui fait, je suis à droite, je te dépasse. Transformé, ça va finir, je prends la boîte et je te déboîte, quoi. Ça va être, ça peut être dangereux. Le vocal, ça marche pas super bien, mais.
T'imagines un tweet sur le dépassement de Hadakinen sur Schumacher en 2000, ça peut être drôle.
Oh purée, ouais, celui-là. Oh, vas-y,
retourne-toi. Je suis derrière toi, regarde. Retourne-toi. Ah bah non, trop tard.
Non mais on remarquera quand même qu'il y a eu une tentative d'innovation l'année dernière à Singapour. Non, c'est il y a 2 ans à Singapour avec Eki Kovalainen qui a déjà commencé à essayer un premier système avec des signes indiens et des signes et des signes.
Non, moi ce que je trouve que c'est sympa.
Williams, ils ont essayé le principe, mais ça n'a pas marché.
Ils ont voulu faire brûler du journaliste, franchement, c'est pas sympa. Mais moi ce que j'aime bien dans les innovations qu'on a eues dernièrement, c'est la caméra sur le casque. Je trouve ça sympa.
La caméra vomit.
Oui, non, mais elle est quand même moins parce qu'ils ont, ils avaient déjà mis une caméra sur le casque. C'était pour la dernière course de David Coulthard au Brésil en 2000. C'était en 2008.
Oui, non mais tant qu'il tourne.
Sauf que là, on voyait rien.
Oui. Non, mais là, on voit bien.
Je suis d'accord qu'il pourrait pas en abuser, mais je trouve ça, je trouve que c'est pas mal.
Allons.
Mais c'est vraiment une caméra vomi parce que rappelez-vous tout.
Non, c'est-à-dire que
de Marc Weber qui vomit dans son casque, et les mecs lui disent si tu veux, tu peux rentrer. Non, c'est bon. C'était continuer.
Schumacher avait dit à une époque qu'il pissait dans son baquet.
C'est-à-dire que les vidéos sont très courtes, mais tu passerais pas 1h30 sur cette caméra, quoi.
Non, mais c'est vrai que de temps en temps.
Ouais, c'est sympa.
Ça peut être sympa.
Sur les départs et tout ça, c'est.
On pourrait s'en servir plus que ce qu'on fait maintenant.
C'est comme les caméras sur les pièces et compagnie, notamment. Chez McLaren, ils ont une caméra en dessous de la voiture qui est franchement très sympa. Tu vois vraiment, même des fois, tu vois les turbulences aérodynamiques.
Les vidéos vers l'arrière avec le fond plat et que c'est.
Mais c'est ce genre de multiplication des angles que moi je trouve très 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 chouette. Ça.
Non, le véritable intérêt que j'aurais, du moins sur une avancée, c'est qu'on puisse avoir même une appli sur son téléphone ou autre pour avoir accès aux communications radio, vu qu'elles sont libres et écoutables. Pourquoi est-ce qu'on pourrait pas avoir ça
enfin, vraiment... elles sont libres et écoutables, elles sont quand même diffusées après que la FIA les ait écoutées. Hein.
Oui.
C'est pas diffusé n'importe comment. Hein.
Mais, attention, c'est une bonne idée. Hein.
Ah, tu peux capter les ondes, hein, si t'es proche.
Non, mais ça serait bien, une appli qui feront payer 45€, bien évidemment. Dino, une autre question.
Oui. Alors une question de Clément qui nous pose la question suivante. Salut le SAV de la F1. Comment sont gérés les mécaniciens? Combien y a-t-il par voiture? Est-ce que ce sont les mêmes qui effectuent les ravitaillements et qui travaillent dessus entre les roulages? Est-ce que ce sont les mêmes toute la saison ou alors y a-t-il plusieurs équipes durant la saison? Merci d'avance pour votre réponse. Donc tout ça c'est sur l'équipe. Bon, on a un peu en partie répondu. Moi, à ma connaissance,
c'est peut-être. On en a beaucoup parlé sur les arrêts au stand. Je pense que c'est une question plus générale.
C'est une question. Donc, on a des idées de chiffres. Maintenant, je pense pas qu'il y ait de chiffres précis dans le règlement. Il n'y a pas de limite de personnel.
Ils sont limités au nombre de personnes sur les grands prix par équipe. Ils peuvent pas avoir. Je pense, mais il faudrait vérifier. Je me demande si le chiffre n'est pas de plus ou moins 140 employés sur. J'ai entendu le chiffre il y a pas longtemps,
justement, ça avait baissé. Justement, certaines personnes avaient dû.
Ils peuvent pas.
Dû multiplier quelques postes parce que ils avaient réduit justement pour.
Mais je crois que c'est ça. Je crois que c'est Vergne quand il a été reçu dans une école de Lyon, je pense, qui a évoqué ça. Ah, il a expliqué qu'ils avaient une limitation. Au niveau des personnes présentes sur le circuit, mais que ça n'empêchait pas, par exemple, certaines écuries comme Red Bull, qui, avec les connexions à Internet, etc., ont des tas de personnes derrière des ordinateurs à l'usine de Milton Keynes. Donc, ils ont quasiment autant de personnes, plus de personnes qui analysent les données et les datas à l'usine que sur le circuit, parce qu'ils ont une limitation de personnes.
Surtout les grosses équipes, on se doute que McLaren,
Parce que Toro Rosso.
Donc après, est-ce que ce sont les mêmes toute l'année ou pas? C'est un peu. On y a répondu par le biais des mécaniciens des aéro stands.
Et je pense qu'il y a une limitation aussi à ce niveau-là. Enfin, parce que c'est de nouveau pour ça que certaines équipes.
Ça doit dépendre aussi des postes. Les postes clés, non, ils doivent toujours être identiques. Les ingénieurs clés doivent toujours être identiques. Les petites mains entre guillemets, par contre, là, ça tourne peut-être.
Et même sur les aéro stands, on avait dit qu'avec aujourd'hui l'importance prise par les aéro stands, on avait plutôt tendance à avoir des équipes régulières qui font toute la saison. Plutôt que des équipes qui sont un peu réunies en fonction des grands prix, par des connaissances ou via un réseau, on a plutôt affaire à vraiment une équipe qui est entraînée tout au long de l'année et qui fait vraiment ce travail-là.
Oui, puis,
à noter qu'un mécanicien d'aéro stand ne fait pas que les aéro stands. Enfin, il s'occupe aussi de la maintenance autour de la voiture et compagnie. Il y a d'autres mécaniciens en plus qui sont chargés de travailler sur la voiture, mais les équipes, bien évidemment, ne payent pas des mecs que pour faire les aéro stands et que derrière ils retournent dans le camion et ce qui se tournent les pouces pendant qu'ils ont rien d'autre à faire.
Non, mais par exemple, avant, il y avait deux équipes aéro il y avait l'équipe course et l'équipe d'essai. Ce qui n'existe plus maintenant puisqu'il y a moins d'essais. C'est pour ça aussi que les équipes veulent pas forcément que ça revienne de manière trop importante. Et de la même façon, ils veulent pas qu'il y ait trop de grands prix sur une année, parce que je crois que c'est Martin Whitmarsh de chez McLaren qui avait dit, si on augmente le nombre de courses, on va devoir engager pour former une deuxième équipe. Comme il y avait équipe course, équipe essai, parce qu'on pourra pas demander à des gens de rester aussi longtemps loin de leur famille et de façon régulière. Donc ça posera un problème au niveau du personnel, alors qu'on a aussi réduit le nombre de personnel d'employés pour réduire les coûts.
C'est tout pour le répondeur, Nino ?
Oui. Alors à noter qu'on essaiera quand même de se renseigner, d'essayer d'avoir un exemple concret auprès d'une équipe.
Donc on rappelle, si vous souhaitez nous poser des questions, l'adresse mail c'est répondeur@savf1.fr. On rappelle qu'il y a un concours, le concours top opposition. Rappelle-nous la question, Dino.
Alors la question était la suivante, quelle est la longueur du circuit de Valence? Pour répondre, c'est...
Il y a un piège. On l'a précisé lors de la dernière émission, on sait jamais, peut-être que des gens n'ont.
On dit ça, puis de toute façon les gens ils donnent les deux réponses, une vie.
Oui, c'est vrai.
Les gens, on leur dit qu'il y a un piège, mais ils répondent quand même par sécurité les deux, cas où.
Et donc l'adresse,
c'est concours@savf1.fr. Vous pensez à nous envoyer une question donc sur le Grand Prix de Grande-Bretagne ou sur la Grande-Bretagne, Et puis nous donner la réponse avec la question, ça nous aidera à définir le vainqueur.
Ou sur la météo aussi, ça peut être sympa pour l'Angleterre, non ? Une question sur la météo.
C'est un peu du pareil au même.
Alors, j'en profite aussi parce qu'on m'a posé la question par mail. Quand vous gagnez, une fois le concours, vous avez le droit de reparticiper après.
Ah oui.
Vous gagnez un ticket pour le tirage au sort fin de saison, mais vous pouvez en gagner 5, 6, 7 au Vendée à Globen.
C'est tout le truc d'être assidu, c'est que vous pouvez avoir plusieurs tickets à fin de saison.
Voilà.
Ce qui ne veut pas forcément dire que vous allez gagner à la fin.
Voilà, c'est-à-dire que les deux précédents tirages, c'est un mec qui avait participé qu'une fois et gagné qu'une fois.
Voilà. Vous multipliez vos chances. On arrive à la fin de cette émission. Merci, messieurs.
Mais de rien.
Ce j'ai envie de rien. Vous dire bon grand prix parce qu'il faudra bien quand même, parce que c'est Valence.
Wow.
Il sera bon, j'y crois.
La météo sera belle, mais le grand prix...
Il y aura qu'une zone DRS.
Oui, ça déjà, c'est bien, ça. Parce que, honnêtement, déjà au Canada, c'était bien de pas en avoir qu'une. Même si, on l'a déjà dit, elle était un endroit où elle sert à rien, mais puisqu'on double.
À Valence, Alors, sans avoir deux, ça aurait été bien, mais il aurait fallu en faire deux à deux endroits différents du circuit.
Deux en enfilade, c'est stupide.
Pas deux avec une grosse chicane au milieu.
Oui, parce que voilà. La deuxième annule la première, donc c'est comme à Abu Dhabi, c'était stupide aussi, mais.
Oui. Allez, sur ce, ciao à tous.
Ciao.
Ciao. Ciao. Eh, mais t'as oublié un truc là, Shinji. Faut qu'on le refasse.
De quoi?
Ouais. La F1 sur internet.
Ah ouais, Shinji.
Ah oui, c'est vrai.
Ah, mais c'est.
Nous, on était chaud.
Bah oui, mais je l'attendais.
Ah, c'est dommage. Non, non, mais c'est dommage. Moi, je dois y aller, je suis désolé.
C'est comme vous voulez, hein.
Tout ça parce qu'il y a le match de foot
après. Il y a la F1 à la télé, merde.
N'oubliez pas, la F1 sur internet, c'est sur
fanf1.com.
Oh, gars, on était presque là.
Je vous ai devancé, je suis désolé, de meilleur départ.
Attends, je m'entraîne toute la semaine.